Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, hein, comme tous les lundis, 19h-20h30. Alors on avait une émission bien dense et bien chargée la semaine dernière, ça va être encore le cas ce lundi, avec nos invités et ceux qui sont avec nous, qui vont vous faire vivre l'actu du sport durant ce lundi. On aura notre ami Stéphane Desenclos au téléphone tout à l'heure vers 20h05. On retrouvera aussi Julien Combes du Stade Français pour nous faire un petit peu le bilan du tournoi Destination 2024, un bilan assez mitigé, mais enfin, on en reparlera avec Julien. Et puis, je vais saluer ce soir d'abord Vanessa. Bonsoir Vanessa.
Bonsoir Philippe.
Ça va, pleine forme. Tu as vécu la semaine dernière donc les internationaux de tennis de badminton, pardon.
Du 5 au 10 mars.
Voilà, c'est ça. Et tu nous as ramené tout plein d'interviews, donc on reviendra très en détail sur cette semaine de compétition que tu as suivie. Il est avec nous pour son premier journal des sports, c'est Alexandre. Bonjour Alexandre, ça va?
Bonjour Philippe, ça
t'es
va
pleine
très
forme
bien. Ouais, je suis en pleine forme.
Très bien, l'actu sportive a été belle, hors foot, hein, parce qu'on aura le point foot, j'ai dit avec Stéphane. Hein.
Mais franchement, oui, ça va, c'est chargé finalement.
Bah, bien sûr. Et puis je salue mon invité du jour, alors je sais pas si c'est un homme de radio, si c'est un homme du sport, un chef d'entreprise, il va nous le dire. C'est Fabrice Arendès. Bonsoir Fabrice, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Ouais, merci à vous, salut tout le monde.
Alors, voilà. Bonsoir Fabrice.
Je vais casser l'ambiance d'un coup si on ne dit pas le S.
Ah bon?
Oui,
ah
c'est
bon
pas grave. C'est, en fait, la blague
moi, Carnus, on dit le S. Hein.
Ouais, la blague chez la famille, c'est quand je suis venu tout seul, on ne prononce pas le S. Non, non, mais on dit Arad. Tout court, il n'y a pas d'accent.
Ah,
oui, il n'y a pas d'accent.
Ah d'accord, ok.
Ouais, bah, c'est magique, en fait, la langue française, elle est un peu pourrie.
Voilà.
Donc, en fait,
bon, Fabrice, on t'a invité parce que finalement, tu as créé Radio Sport et Radio Cyclo, donc on voulait en savoir un peu plus, parler. Donc en parler un peu plus, parler aussi des projets qui arrivent dans les prochaines semaines, Dieu sait s'il y en aura, et peut-être même dans les prochaines années. Mais ton regard par rapport au sport, comment ça arrive cette passion pour la radio et pour le sport? Alors je crois savoir que tu es plus homme de radio que homme de sport. Hein.
T'as du temps là, on en a pour 3 jours, ouais. Hein, tu le sais ça.
Oui, bah, on ralentit à 20h30.
Non, alors moi j'ai commencé ma carrière il y a très longtemps, dans les années 90. Mm-hmm. Ça ne nous rajeunit pas. Le petit jeune là, il se marre depuis tout à l'heure déjà, rien que de savoir que je suis un vieux en fait. Non, moi j'ai commencé ma carrière, j'ai eu la chance de pouvoir commencer ma carrière des grosses radios, parce qu'à l'époque il n'y avait pas tant que ça. Ouais. Et le sport, c'est arrivé en fait au fur et à mesure, parce qu'au départ, quand tu fais l'émission, il n'y a pas du sport pour tout le monde. Hein. C'est réduit à une certaine caste, hein, quand même. C'est de récompense à l'époque, le sport. C'est pour y aller, il faut attendre son ticket, parce qu'il n'y a pas tout le monde peut aller, même les journalistes. Tu as un peu un ticket, donc sur la réalisation, parce que moi je suis réalisateur d'abord, c'est pareil, tu n'as pas la place pour tout le monde. Et en fait, c'est venu très tard. J'ai eu la chance également de participer à l'éveil de RMC dans les années 2000, et je suis parti. On m'a dit, tiens, il faut partir à la Coupe du Monde en Corée, tiens voilà, tiens, prends ton baluchon et vas-y. Et on s'est débrouillé pour y aller. Et après, on a travaillé comme ça. Et j'ai pas fondé moi Radio Sport tout seul, hein, et Radio Cyclo. On est plusieurs, mais voilà, le sport, c'est la vie de tous les jours en fait. Il y a pas de.
Mais t'es arrivé comme ça par accident.
Mais toute la vie n'est qu'un accident, c'est ça.
Ouais, ouais.
Mais non, mais c'est que regarde, c'est que en fait, c'est que des rencontres et des hasards. Il n'y a pas eu. En fait, t'as beau vouloir faire quelque chose, tu peux te dire, j'ai pas commencé ma carrière en me disant je ferai du sport. Mm-hmm. Je te l'avoue, je ne suis pas sportif au point de départ.
C'est ça le paradoxe. Hein.
Moi, j'ai fait du foot comme tous les gamins d'une époque. J'ai été très vite relégué en réserve pour d'autres raisons, parce qu'il y en a qui couraient plus vite que moi, et d'autres qui étaient plus grands que moi. Moi, je suis plutôt sport mécanique, donc forcément, qui dit sport mécanique dit des petites casses un peu différentes. Donc, je me suis fait un peu bobo différemment. Et après, tu regardes le sport différemment. Tu regardes tes copains qui vont faire du sport, tu as des copains qui vont. Et donc, tu supportes. Donc, j'ai plus supporté qu'autre chose. Et j'ai eu la chance de pouvoir supporter des amis qui faisait du sport très sympa, donc c'est ça l'idée quoi.
Alors pourquoi Radio Cyclo et ensuite pourquoi Radio Sport? Alors je sais un peu, hein, j'ai préparé l'émission, mais pourquoi Radio Cyclo?
Radio Cyclo, c'est Jérôme Armand qui
grand passionné de vélo, Versaillais au
voilà,
départ,
et qui a participé lui, on va pas le dire, il est un peu plus âgé que moi, mais lui a participé à l'époque à la libéralisation de la bande FM, donc il a découvert la radio à l'époque, et quand il est revenu d'un projet qui s'appelait ce qui était sur l'immobilier, quand il est revenu en France, il s'est dit mais il y a pas de radio qui parle que de vélo. Et il cherchait une émission qui parlait que de vélo, donc il s'est dit, bah, je vais la faire. Donc il a monté une radio qui s'appelait Radio Cyclo. Et on a, moi, je l'ai rejoint par hasard pour l'aider techniquement parlant à monter le projet. Et au moment du Covid, en fait, on s'est retrouvé dans une situation assez cocasse. Moi, je devais faire le Tour de France et les JO. Ça ne s'est pas fait. Et je lui ai dit, mais si tu veux, on part faire le Tour de France. C'était en septembre. Il m'a dit, chiche. J'ai dit, bah, on y va. Donc on est
avec parti. Radio Cyclo.
Avec Radio Cyclo. Ouais. Et on a fait une tournée qui s'appelait Radio Cyclo Tour. Et on a fait une émission qui parlait pas que du vélo, parce
oui,
que,
bah, parce que sinon c'est pas drôle. Le but du Tour de France.
Hein, ouais. Oui, on parlait de gastronomie, on parlait de tourisme, on parlait de jeunes, on parlait de travail, on parlait plein de choses, et on l'a fait 3 ans de suite, et après il y a une question qui s'est posée assez rapidement, c'est financièrement parlant, comment on peut financer des projets comme ça? Et le problème est assez simple, c'est qu'on ne peut pas. Si tu n'as pas des amis, si tu n'as pas les bons contacts, si tu n'as pas le coup de chance, tu ne le peux pas. Et on s'est dit que le coup de chance, il fallait qu'on aille le chercher plus large. Et donc, on a dit bah, il faut faire les autres sports. Et le hasard fait que, en fait, si tu veux, pourquoi on s'est dit pourquoi tous les sports? C'est parce que, d'abord, un, il n'y a pas de radio qui parle de tous les sports. Alors oui, il y a des radios. Non, mais je vais m'entendre.
Non, mais une fois par semaine. Chaîne,
voilà, alors, mais de chaînes de radio qui parlent de tous les sports. Oui, c'est-à-dire que, qui permettent d'avoir les sports qui sont le ring hockey, personne ne sait. Enfin, personne ne sait.
Tu sais qu'il a failli y avoir un projet radio au CNOSF. Hein.
Oui,
mais du coup, ça n'a pas marché. Ils ont fait une télé.
Alors, ils ont fait une télé, mais c'est dommage. Je pense qu'ils auraient pu faire un mix aussi avec une radio. Ouais. Et donc, on a fait tous les sports parce qu'on s'est rendu compte que pendant le Tour de France, les gars dans la voiture parlaient de tous les sports sauf du vélo. Donc il parlait du vélo toute la journée, et quand il montait dans la voiture après c'était ah t'as vu le match de foot, oh, ils sont mauvais, et le rugby, oh, l'équipe. Et on s'est dit mais attendez les gars, vous avez parlé de tous les sports sauf de l'eau. Ouais, bah et alors bah, peut-être faire une émission là-dessus. Donc ça, on s'est dit bah, peut-être penser à ça. Et après le hasard des rencontres a fait qu'on a trouvé quelqu'un qui s'est dit bah en fait moi votre projet il m'intéresse, il y a un côté humain, parce qu'on veut pas aujourd'hui, on ne veut pas proposer, comme tout le monde, juste une radio de plus sur le sport. L'idée, ce n'est pas de faire une émission, parce que tout le monde peut commenter. On se met devant une télé, on se met devant un truc et on commente. Et en fait, on s'est dit ça, il y en a beaucoup qui le font, il y en a qui le font très bien. Et si on veut le faire à un niveau professionnel, comme on veut aller sur le terrain après, il faut 50 journalistes, il en faut 50 pour le vélo, il en faut 50 pour le foot, il en faut 50 pour... Ça devient énorme. Et il y en a qui le font très bien, donc on ne va pas leur prendre la place. En revanche, ce qu'on peut faire, nous, c'est prendre le temps. Et prendre le temps de parler avec les sportifs et de parler de l'univers du sport. Et quand je dis l'univers du sport, c'est qu'on parle d'un sportif. Et en fait, on oublie que le sportif, il n'est pas tout seul. D'abord, il commence comme amateur. Il commence comme un gamin qui joue au foot parce que son père l'emmène ou parce qu'il fait du hand ou du volley.
C'est ça qu'il ne faut jamais oublier.
Et après, cette partie amateur, si tu veux, elle nous touche parce que en fait, c'est tous les jours qu'elle est amateur. Et après, on oublie que le sportif, il est accompagné. Donc, tu as l'INSEP pour la partie haut niveau, mais tu as d'autres accompagnements. Et après, ils ont des partenaires d'entraînement qui ne sont pas forcément connus. On se rend compte tout d'un coup, tiens, lui, c'est lui qui l'entraîne depuis des années. Et en fait, il y a des tas d'histoires à raconter. Et là, on s'est dit, nous, c'est ça qui nous intéresse. C'est le côté humain qui est caché derrière l'athlète. Parce qu'en fait, on oublie que c'est un humain qui a ses doutes, qui a ses peurs. C'est pas une machine qui part au JO en disant, ouais, c'est bon, je vais gagner. Et qui repart, qui dit, bah, t'as perdu, bah, tant pis pour toi, tu vas te cacher. Non, c'est des gens qui ont des doutes, qui vont s'entraîner des mois et des mois avec des privations. Alors, attention, ils vont vous dire que certains, c'est pas des privations. C'est une privation pour moi, parce que moi, ce qu'ils font, ça m'enlèverait des choses qui me plaisent. Eux, ce n'est pas une privation. Quand ils font ce qui leur plaît, quand ils vont faire un sport qui les touche, il n'y a pas de privation à ce moment-là. En revanche, c'est vrai que c'est dur quand on voit l'entraînement qu'ils doivent subir. Parce que là, c'est le terme, c'est subir un entraînement. Ce n'est pas, pas volontaire hein, pour faire 10 km plus 10 km plus 10 km plus 10 km toute la journée. Tu n'as plus de jambes, tu n'as plus de muscles, tu n'as plus de respiration, tu n'as plus rien. Mais tu dois le faire parce que tu n'as pas le choix. Donc c'est compliqué. Et derrière, il y a des doutes, parce qu'il y a des moments où ils se disent on va pas y arriver. Comme nous, on se dit bah ça je vais pas y arriver. Et ils sont pas tout seuls, mais il y a des choses à raconter. Et on s'est dit, on peut prendre le temps de le faire, parce qu'on a la place de le faire. Donc on l'a dit, chiche, donc on le fait. Et après, on essaye d'en faire de plus en plus, on essaye de le faire de mieux en mieux. On a les moyens techniques parce que je travaille, moi je suis prestataire. Tu disais, qu'est-ce que je suis? Bah, moi je suis prestataire. On a une société qui est prestataire pour les radios et télé qui font les grands événements. C'est-à-dire que nous on est cachés derrière, on est dans la phase. Caché, c'est comment on dit, de par.
Se cacher l'iceberg.
Non, alors, c'est même pas ça, c'est Dark Vador, là, c'est quoi? C'est
l'autre côté obscur.
Ouais, le côté obscur de la force de la radio. Nous. Et si tu veux, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir travailler avec des sociétés sur d'autres projets qui vont pouvoir financer ce qu'on va faire. En fait, c'est un peu comme une association qui va chercher des subventions. Oui. Et ben nous, on va travailler pour chercher du financement pour pouvoir payer ce qu'on est en train de faire et pouvoir le payer à tous les niveaux. C'est-à-dire payer, ben, comme pour vous, hein, faut payer la technique, faut payer l'électricité, il faut payer l'internet. Donc, il y a un moment, on sait qu'on ne pourra pas tout faire si on n'y arrive pas à retrouver des gens qui nous suivent. Et après, on a un détail tout bête. Entre guillemets, on peut faire le plus beau projet du monde, on peut faire la meilleure émission du monde avec les plus beaux invités du monde. Si les gens ne viennent pas l'écouter parce qu'elle ne sait pas qu'elle existe, on sera battu. Ouais. Donc l'un des premiers travaux qu'on est en train de faire depuis 6 mois, parce que la marque n'existait pas mois d'août.
Radio Sport, c'est au mois de septembre. Hein, ça a démarré. Mondial de rugby. Hein,
ouais, c'est voilà. Ça. Et c'est pour te dire qu'on a même oublié de démarrer YouTube le premier jour. On n'avait pas pensé qu'il fallait 24 heures. Tu vois, c'est un petit détail. Pourtant, c'est notre métier. Hein, aussi, on a un peu oublié. Mais l'idée, c'est que toi, aujourd'hui, on est en train de travailler sur le fond, c'est-à-dire travailler sur ce qu'on veut faire. On a une vingtaine d'émissions qui sont réfléchies, préparées, avec des gens qui sont prêts à démarrer. Sauf que pas de bras, pas de chocolat. Donc s'il n'y a pas de sous, on ne peut pas démarrer. Parce qu'il y a un côté bénévole qu'on ne peut pas avoir. C'est-à-dire que nous, on a des gens, moi, s'ils sont bénévoles, ils peuvent venir. Mais on ne peut pas demander tout à un bénévole. On ne peut pas demander à faire une émission professionnelle, à un niveau professionnel qu'on va vendre à un niveau professionnel en étant bénévole. Il y a un moment, si on lui demande du temps, parce que c'est plus que 5 minutes, si on lui demande de s'investir dedans, il faut un moment qu'il y ait une rétribution. Mmh. Et malheureusement, ça, c'est la partie la plus compliquée. Parce que c'est, on n'est pas dans un monde où l'argent tombe ni des fenêtres, ni des arbres. Parce que tout coûte cher. Si on doit se déplacer, ne serait-ce que d'aller inviter dans une émission, on demande à un invité de venir, il faut qu'il vienne. S'il vient en voiture, à Paris, bon courage. S'il vient en RER, mine de rien, le ticket, ça peut vite monter. Donc, c'est un petit détail, mais pour certains, c'est énorme. Donc, on ne peut pas demander ça. Donc, il y a des émissions qu'on aimerait démarrer, hein, qui sont prêtes. Bah, on ne les fait pas parce que sinon, s'il y en a un qui doit faire un effort qu'on ne peut pas lui demander, pas aujourd'hui. Peut-être que c'est une erreur. Peut-être qu'on me dira, non, vous arrivez de faire. Mais on a une association. On sort du côté association pour devenir une société avec un média digital, c'est justement pour basculer. Après, sinon, effectivement, après, autant venir travailler avec vous et venir participer aux émissions, ce qui n'est pas incompatible d'ailleurs, de participer à d'autres émissions. Quand on avait fait Radio Cyclo, l'une des idées de base, c'est quand on faisait sur le tour, on offrait l'émission. C'est-à-dire qu'on offrait l'émission aux radios associatives qui le voulaient bien. Mmh. Le pire qu'on a découvert, c'est qu'il y en a certaines qui ne le voulaient pas. Dommage. Mmh. On faisait une émission de 4 heures de direct par jour, en étant sur place, qui parlait de tout. Ils nous disaient non. Non, on préfère mettre de la musique. Mettez de la musique, je ne veux pas me battre là-dessus. Ouais. Donc c'est dommage, mais c'est le choix de chacun. Après, si on a dit, il faut la vendre. Parce que si vous faites, s'il n'y a pas d'argent, s'il n'y a pas de valeur, on te dit, s'il n'y a pas de valeur, c'est qu'elle ne vaut rien. Donc pourquoi on la prendrait? Donc on se retrouve piégé par, il faut donc donner un prix ou une valeur. Et après, on te dit, mais si tu n'as pas d'audience, c'est qu'elle n'est pas bien. Les gars, on se tire les cheveux dans tous les sens, et t'as vu, j'en ai beaucoup, donc ça devient compliqué. Donc c'est vrai que ces projets-là, tous les projets, et le sport encore plus que le reste, parce que les projets communautaires, ils ont une communauté derrière, ça les suit. Le sport, en fait, ça touche tout le monde, tous les jours, sauf qu'en fait, on va te parler, c'est un sujet favori dans les réunions de famille, le sport, hein. C'est toujours un moment, un sujet qui va partir. Alors bon, le foot est prioritaire dans les sujets de conversation violents à la maison, hein, parce que PSG Marseille, je t'en parle pas, hein. Ou Marseille-Monaco, quand tu vas dans le sud,
Lyon-Saint-Etienne.
Nice, Lyon-Saint-Etienne. T'as des zones comme ça où ça va devenir les familles, je te raconte pas. Hein. J'étais en rendez-vous ce matin avec quelqu'un, un journaliste qui est belge, et qui me disait que lui, il est belge, sa femme épouse est française. Quand il fait France-Belgique, il y a de l'ambiance à la maison. Donc, mais si tu veux, ça, c'est l'exemple ultime, parce que le foot, dans l'inconscient de tout le monde, c'est présent partout. Mm-hmm. Mais il n'y a pas que ce sport-là, en fait. On ne se rend même plus compte des sports qu'on a. Mais aujourd'hui, si tu prends les radios ou les télés, mais tu le sais très bien pour le faire, c'est qu'au final, on voit très peu les sports. Et je ne te parle même pas des sports féminins et des sports handicap. Là, on va arriver sur les JO, on va parler des femmes. J'espère qu'après, on continuera. On va parler du handicap. On va parler
ça, c'est la crainte. C'est la crainte. L'héritage des jeux, c'est la crainte.
Mais moi, j'avoue que le mot héritage me gêne. Ouais. Enfin, c'est le choix du mot héritage me gêne. Parce qu'en fait, c'est du genre, je pars, je vous laisse ça, puis vous démerdez avec. Mm-hmm. Excusez-moi, je suis mal poli sur la phrase, mais c'est un peu ça, en fait. C'est c'est bon, hein, on a monté la tente, hein, vous débrouillez, vous ferez le ménage. Les gars, il y a un moment, c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que vous voulez en faire? Est-ce que vous avez vu une vision lointaine ou pas? Et j'espère qu'elle est là. J'espère que demain, on parlera autant du sport féminin. Parce que, en fait, les chiffres le disent, hein, ça sera le sport de demain, c'est là qu'il y a de l'argent qui va arriver. Donc ça va basculer à un moment ou à un autre. Mais pas tout de suite. Et le sport handicap, si tu veux, c'est vrai qu'il y a un souci. Et je vais peser mes mots. Il y a un souci avec le sport handicap. Je vais prendre un exemple. Le 100 mètres, quand tu prends le 100 mètres au sport masculin ou féminin sur les JO, tu sais que tu vas voir l'homme ou la femme la plus rapide du monde. Tu le sais. Voilà. Sur le sport handicap, la problématique, c'est qu'il y a des notions de handicap différentes. Ouais. Donc, tu n'as pas le handicapé le plus rapide du monde, tu as par catégorie. Donc, c'est vrai que les gens ont du mal à s'enflammer. Alors, ce n'est pas politiquement correct de le dire. Hein. Je suis désolé parce que je pense on va me dire... Ah, mais malheureusement, c'est la vérité. Moi, j'ai des gens qui me disent, bah oui, mais enfin bon, ils sont quatre à courir, ils n'ont pas le même handicap. Il y en a un, il n'a qu'une jambe. L'autre, il a deux palettes. Le troisième, il est aveugle. Le quatrième... Oui, et ils font la même course. Alors, c'est vrai que c'est pour beaucoup, c'est difficile de s'enflammer. Mmh. Toi, on parle de fin et autres. C'est difficile de s'enflammer pour le vainqueur parce qu'on ne sait pas trop s'il a vraiment gagné, s'il est premier, deuxième ou pas. Voilà. Mais en revanche, il y a la performance, l'effort qui est fait, l'abnégation de certains sportifs. Ils en font largement plus que moi. C'est-à-dire que moi, il y a un moment, moi, je respecte énormément ces athlètes-là. Et j'utilise le mot athlète, ce n'est pas pour rien. Parce qu'ils en font largement plus que moi. Ils font des efforts que je ne ferai jamais. Alors, parce que je ne suis pas sportif dans l'âme, chacun a ses passions, mais qu'est-ce qui va rester derrière de ça? Parce que c'est pareil, on te dit il faut ouvrir l'accès du sport handicap, féminin, le mot inclusion, tu sais, on inclut et autres. D'accord, mais vous êtes baladé dans Paris, et encore, attention, je mets des gants pour tout ce que je vais dire, ils font des efforts partout, mais moi je balade avec des valises de matériel. J'en baffe comme pas possible. Mais je suis juste gêné parce que c'est plus lourd à porter. Mais
quelqu'un. Quoi. Ouais.
Mais on pense. Alors c'est vrai qu'on a un tort, c'est qu'on pense juste aux gens qui sont en fauteuil. Mais tous les autres. Les gens qui ont des déficiences visuelles, qui ont du mal à voir les marches.
Surtout qu'il y a des handicaps visibles et non visibles. Et
80% des handicaps sont invisibles. Hein.
Ouais. Les petites tailles pour aller au distributeur bancaire. Hein.
Mais y a, voilà. Merci de me rappeler que je suis si petit que ça.
Non, mais regarde,
c'est y a des trucs tout bêtes. C'est les poignées de porte qui ne sont pas placées au bon endroit. On parle d'accès de handicap, mais on pense par exemple, moi j'ai des personnes âgées dans mon entourage, mais pousser une porte d'un immeuble, des fois tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à ouvrir la porte. Déjà, quand tu es valide. Alors, t'imagines quelqu'un qui a 70 ans avec une canne. Comment il se jette sur la porte? Il faut qu'il demande à trois personnes pour l'ouvrir. Et en fait, on va focaliser sur les jeux des accès de mobilité. C'est très bien. Mais ce serait bien qu'on regarde aussi le quotidien de tous les jours. C'est-à-dire, tous les jours, on peut faire des efforts nous-mêmes.
Bien sûr.
Et je te rejoins sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux catégories de handicap. Pour avoir été aux mondiaux de para-athlétisme, il y avait beaucoup de catégories. Et au début, quand on n'est pas forcément familiarisé, parce qu'il y a peut-être un manque d'imprégnation générale, on est un peu perdu. Et du coup, voilà, c'est aussi pour le public, même si on les aide un peu. Par exemple, la chaîne L'Équipe a retransmis les mondiaux de para-athlétisme. Donc ça, c'est déjà un pas. Mais il manque peut-être un peu cette imprégnation, cette explication. Mais encore une fois, comme tu dis, on a de plus de mal à attraper les choses parce qu'on n'est pas encore familiarisé avec ça, peut-être.
Oui, et puis après, c'est pas facile. C'est-à-dire que tu prends des sports, déjà, sports valides, pour les règles, elles évoluent. Je prends la Coupe du Monde de rugby. La Coupe du Monde de rugby, tout le monde disait ouais, c'est facile. Alors, c'est quoi le coup du bunker, là? Premier jour, on te dit, ils vont faire un bunker. Un quoi? Un bunker, mais attendez, c'est parce qu'on va fêter les 80 ans du débarquement qu'on parle de bunker. C'est quoi l'idée? Si tu veux, quand tu connais pas la règle, si tu suis pas l'évolution de la règle, t'es battu. Et c'est vrai qu'on fait des, toi, le tennis de table. Je vais prendre le tennis de table. Comme ça va trop vite, on a changé les règles. C'est-à-dire qu'on a créé la balle de tennis de table, on l'a grossie. Au lieu de faire 38 minutes, on est passé à 42. Ça, elle va moins vite. Et c'est plus de la cellulose, parce que la cellulose, ça pouvait prendre feu, donc on l'a remplacée en plastique. Donc elle va encore moins vite. Mais du coup, finalement, les joueurs, ils se sont adaptés. Donc ça va encore trop vite. Donc ils sont en train de réfléchir, et c'est pas une blague, ils sont en train de réfléchir à hausser le filet de toi, de le remonter d'un ou deux centimètres pour que ça soit encore plus lent, vous les obligez à jouer différemment. Et ils vont jouer. Et donc, tu vois, ces règles-là, par exemple, si tu n'as pas suivi, si tu n'es pas spécialiste du sport, tu ne peux pas le voir. Alors, le public, je t'en parle pas. Si tu ne prends pas le temps de lui expliquer, alors je ne dis pas qu'il faudrait un fascicule en entrant dans le stade, peut-être pas, mais tu as raison, il y a une vraie éducation à faire. Et alors, il y a l'éducation des médias, c'est-à-dire que ça, c'est notre boulot à nous. C'est le nôtre, de dire, vous avez besoin des clés. Nous, il y a une chronique qui s'appelle Kezako qui va arriver prochainement. Et c'est les clés pour comprendre le sport. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas tout comprendre, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas savoir tout d'un coup que, tu parlais du handicap, que tel handicap est telle source de problème et va gérer tel truc et qu'il rentre dans telle catégorie. Parce que c'est pareil, dans chaque épreuve, tu as une catégorie avec des handicaps différents. Même eux, entre eux, ils se perdent. C'est-à-dire que des fois, ils changent de catégorie pour un détail. Il y a des athlètes, ils ont changé de catégorie et puis ils disent, ben, je ne peux plus participer. Pour les nageurs, par exemple, c'est un vrai problème pour les nageurs. Parce que les nageurs, du coup, pour les nageurs handicap, tu vois bien la différence. Hein, quand il n'y a plus qu'un bras ou il n'y en a plus que deux, ou qu'il n'y a plus qu'une jambe, tu dis, ah oui, du coup, ce n'est pas le même handicap. Hein. Donc forcément, tu as des gens qui évoluent. Et ça pose une problématique sur le sport. C'est, est-ce que c'est d'abord et avant tout un spectacle? Et donc, le spectacle, il faut l'apprécier tel qu'il est. Et il ne faut pas l'oublier, c'est d'abord un spectacle.
Oui.
Parce que le spectacle est aussi beau avec les handicapés que les valides. Donc, alors, parasport et valide. Parce qu'après, c'est pareil, les mots, maintenant, ouais. Il paraît que ça choque, donc il faut qu'on fasse gaffe.
C'est vrai que le public, aussi au Mondiaux de parathlétisme, c'est un peu la même chose, ils admiraient. Mais forcément, il y avait ce manque de connaissances, mais qui est normal. Hein, que...
Mais tu vois, il y a un truc, on m'a demandé si on faisait les parasports, on m'a demandé d'être aussi dur avec les athlètes qu'avec les valides. Et le jour où on nous dira, putain, mais t'as été mauvais sur ta course, là, c'est quoi ce travail? Tu fais moins de 10 secondes d'habitude et là, t'as fait 12, c'est quoi ce travail? Et le jour où on leur parlera comme ça,
ouais. Ils diront, ça sera gagné,
quoi. On a gagné.
Ouais, en tous les cas, eux-mêmes, ouais. Ils ont cette humilité et ils le disent. Quand on les interviewe, ils disent, bah là, j'ai pas été bon. Là, voilà.
Mais ils ne demandent que ça. Hein. Ils demandent qu'on les traite comme tout le monde.
C'est ce qu'il faut faire.
Bon, Fabrice, cette radio, donc sur tous les réseaux sociaux.
Ouais, Radio Sport, radiosport.fr, le site internet avec un S à sport, parce qu'en fait, il y a plusieurs sports. Parce qu'en fait, il y en a qui disent, il y en a qu'un. Non, c'est du sport.
Non.
Et tous les réseaux sociaux, oui, parce que l'idée, c'est qu'on va. Là, on démarre l'aventure, on va élargir et cibler les sites pour donner des informations différentes. Sur Instagram, on racontera pas la même chose que sur Twitter, que sur Twitter X, que sur Threads ou que sur LinkedIn. On va cibler pour que les gens trouvent là où ils sont en fait un peu d'informations différentes.
Alors tu l'as dit avec quelques donc des bénévoles et puis aussi quand même quelques confrères bien connus, quelques journalistes. Ça c'est la porte d'accès, c'est les carnets d'adresses qui permettent d'inviter.
Ouais, il y a pas que ça. Voilà. C'est aussi des projets. C'est en fait ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que je fais de la radio et en fait il y a beaucoup d'émissions qu'on a voulu créer à une époque dans différentes radios qui n'ont pas pu voir le jour. Parce que pour plusieurs raisons, parce que
c'est
c'était
plus
pas
facile
le moment.
Sur le digital, justement.
Alors, je dirais oui et non.
Oui.
C'est pas le plus facile parce qu'en fait, on peut tout faire. Mais le problème, c'est qu'on te laisse pas forcément tout faire. Donc, l'avantage, c'est que nous, on fait ce qu'on veut parce que c'est notre tuyau. Mais quand tu vas proposer une émission avec une radio qui existe, on va te dire, bah non, c'est d'abord la télévision. Mais en fait, l'avantage, c'est que je suis allé voir des amis en disant, bah voilà, nous, on a ce projet-là et j'aimerais que tu viennes. Parce que c'est toi qui m'intéresse pour ce projet-là, c'est toi qui vas coller au projet. J'aimerais te fabriquer cette émission-là. Et c'est oui ou c'est non, voilà. Et on ne parle pas d'argent au départ, on parle de projet. Donc j'ai des gens qui ont dit oui. J'ai eu la chance d'avoir Christophe Paco qui a dit oui au projet. Christophe Paco qui a, les gamins ne le savent pas forcément, mais qui a créé la plupart des émissions sport aujourd'hui qui existent.
Alors, on refait le match, foot, tu connais RTL Foot.
On refait le match, la bande à Paco. Voilà, tout ça, j'ai la chance qu'il ait accepté de venir avec le projet d'aller jusqu'au jeu et d'aller jusqu'au jeu paralympique. Donc l'objectif est là, il sera sur le Tour de France avec nous, parce que voilà, c'est ce qu'il a 20 ans de...
Le club Jalabert.
Il ne fera pas le club Jalabert.
C'est bien, je
blague. Mais ça aurait pu, hein. Mais, on n'ira pas non plus taquiner nos amis d'RTL qui font très bien leur job. Mais non, on va proposer autre chose, justement, faire le sport un peu différemment. On va essayer de raconter les choses différemment, c'est-à-dire qu'on va essayer de non pas d'innover, parce que je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'innovation, mais on va essayer de penser autrement.
Ouais, un regard différent, quoi.
Ouais, parce qu'en fait, on a un temps que les autres n'ont plus.
Oui, c'est ça. C'est ça. Si tu veux prendre 2 heures, tu prends 2 heures.
C'est ça. C'est tant qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est exactement digital, pour vous. C'est tant que c'est intéressant à raconter quelque chose, on va le raconter. Moi, j'ai des gens qui ont plus que 2 minutes à dire.
Bien sûr.
Nous, ce qui nous intéresse, on a une émission qui va s'appeler Pulsation de champion. Ouais. Ben, c'est eux qui vont faire l'émission. C'est-à-dire qu'on on va les présenter pendant 6 minutes. On va parler de leur vie, on va parler de qui ils sont et autres. Et après, on leur donne les clés du studio. Donc, ils prennent la place du journaliste. On leur dit, voilà, t'invites qui tu veux et tu parles de ce que tu veux. C'est toi qui fabriques, c'est ton émission, c'est ton rendez-vous. Et, l'idée, c'est de pouvoir parler de cuisine pour ceux qui cuisinent. Il y en a qui cuisinent, il y en a qui font de la peinture. Ils sont des artistes, en fait, ils ont un nom dans leur domaine. Ils vendent des peintures, on ne le sait pas. Donc, c'est intéressant. Et ça nous intéresse. Il y a d'autres choses à dire, en fait. Si on peut demain commenter les épreuves, on le fera, on ne va pas se gêner. C'est-à-dire que si demain, tu me dis, je vais faire le Tour de France, oui, on fera la course tous les quarts d'heure, on fera le point sur la course pour que si tu viens écouter l'émission chez nous, tu rates rien. Tu ne pourras pas dire, oh, je ne sais pas qui a gagné. Si, tu le sauras.
Parce que le Tour de France, bon, il y a un point sur l'épreuve. Après, il y a des droits d'image qui sont un peu compliqués. Mais pendant
on ne filme pas la route, nous.
Oui. Pendant on invite les maires des localités.
Oui, voilà. Là, l'idée, si tu veux, c'est de voir... On va changer le dispositif cette année, parce que cette année compliquée. Faut l'avouer, hein, sur le sport. C'est, tu disais, la peur, c'est de savoir ce qui va se passer après. Cette année, c'est compliqué parce que tu as l'Euro de foot au mois de juin, et qui va se jouer en même temps
tu
que le Tour de France.
Tu vas être aussi sur l'Euro de foot, enfin,
On va voir comment on va faire. Parce qu'en fait, l'idée, c'est on ne peut pas démarrer quelque chose et dire on s'en va après parce
absolument,
qu'on ne peut pas le faire.
Absolument.
Et l'Euro de foot, ben, la finale, c'est 14 juillet. 14 juillet, on est sur le Tour de France. Donc, quand on fait la finale, on fait le vélo.
T'imagines, l'Euro de foot, finale le 14 juillet, la flamme olympique arrive dans Paris.
Ouais.
Si on est champion d'Europe.
Un vainqueur français sur le Tour de France.
Quel dimanche.
Ah non, mais ça, ce jour-là, c'est Nervous Breakdown, comme disent les films télé. Non, l'idée, si tu veux, c'est ça. C'est compliqué cette année parce qu'il y a tout qui tombe en même temps. Et pour les JO, t'es pas sans savoir que ça démarre le 26
juillet.
Mais les épreuves démarrent le 24. Ouais. Et que nous, il faut que techniquement parlant, et ça vous le savez bien, il faut qu'on soit prêt avant. Mmh. Et donc ça veut dire qu'on va avoir nous deux studios à fabriquer dans Paris pour les Jeux. Donc il va falloir qu'on soit prêt. Donc le Tour de France 2021, le 22, il faut qu'on soit prêt.
Ouais.
C'est bien compliqué. Quoi. Donc il faut faire des choix. Donc on fera une émission depuis Paris qui va faire des duplex avec...
On sait où à peu près? On sait l'endroit de Paris, non? Pas encore.
Oui, dans le 16e, nous.
Ouais,
c'est dans le studio.
C'est le 16e, non, mais ça faut le dire.
Le studio est dans le 16e.
Le studio, il est dans le 16e, d'accord.
Okay. Le camp de base de Radio Sport est dans le 16e.
Ça
sera l'émission qui va permettre d'appeler nos camarades qui sont sur la route du Tour. Donc Christophe Paco, Jérôme Armand et un invité spécial dont vous saurez tout dans deux jours. Mais je peux vous dire, voilà, il est le créateur d'un site vélo bien connu dans le secteur. Il s'appelle Thomas, et je ne dis pas plus. Je te laisse chercher. Et voilà, on va tout présenter dans deux jours. Dans deux jours, pour la J-100. Et on aura donc un relais à la fois de l'équipe sur place. Donc, ils vont vivre le départ. Ils vont pouvoir faire des interviews au départ, au village départ. Ils vont pouvoir faire la route de la course, faire la ligne d'arrivée avec les commentaires de la ligne d'arrivée et les commentaires de zone mixte d'interview. Et au milieu de tout ça, on va rajouter des choses. C'est-à-dire qu'on va avoir... ils vont se faire une pause repas tous les jours. On va faire une pause gastronomie tous les jours. On parlera de la cuisine locale. L'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on mange en France. Il n'y a pas que du fromage et des pâtes. L'idée, c'est de parler de cuisine, ça va être de faire des rencontres avec des gens sur place, c'est-à-dire comment ça se passe. L'immobilier, c'est par exemple, est-ce qu'il y a des régions et des maisons différentes? On ne parle jamais de ce qui se passe dans les villes, dans les régions, donc il faut en profiter. Et on va essayer de parler d'un peu de tout ça. Donc moi, depuis Paris, je vais piloter l'émission. On va essayer de voir. Après, il y aura de la musique, parce qu'on ne va pas non plus se casser la tête à trouver à tout prix des invités. Parce qu'à un moment, il faut savoir respirer. Et après, voilà, on va faire ça pendant les 21 jours. Il y aura des surprises, des choses qui sont en cours de discussion, parce que toi, pour rien te cacher, J-100, c'est donc mercredi matin pour nous. Mercredi matin, mercredi midi à jeudi midi, c'est le J-100, c'est tout pareil, c'est de 0 à 24 heures, on a toujours un litige, voilà, on est au milieu de ça, et c'est de pouvoir lancer nous le sujet, on va parler de toutes les étapes, et, parce que c'est un Tour de France particulier, on part d'Italie, on arrive à Nice, donc c'est encore un Tour de France. Comme disent les autres, il ne fait pas le tour de la France. Voilà, il fait une drôle de boucle qui arrive à 3, qui redescend. Mais justement, elle va être passionnante aussi, parce qu'il va y avoir une course différente. Est-ce que tous les cyclistes vont se donner à fond jusqu'à l'arrivée, parce qu'il y a les championnats, il y a les JO derrière? Est-ce qu'ils se donneront à fond ou pas? On ne sait pas. Voilà, il y a des tas de surprises comme ça.
Et après, il y aura les Jeux, donc tu l'as dit.
Alors les Jeux, c'est gros
dispositif. Comment va être le dispositif?
Alors là, on sera au Club France tous les jours. Donc le Club France, c'est le cœur de la fête française. C'est-à-dire qu'en fait, les athlètes seront là, les familles des athlètes seront là. Il y a un écran géant, c'est au Parc de la Villette. Et nous, on aura un studio sur place pour pouvoir relayer ce qui se passe au cœur du système du cœur olympique français.
Au centre des médias, carrément.
On aura dans l'espace de la Villette, et ça va nous permettre de vivre les Jeux avec les athlètes tous les jours et avoir des émissions spécifiques sur place. On a la chance de pouvoir avoir un circuit des athlètes, donc tous les médaillés passeront chez nous, donc on aura la chance de les avoir, de pouvoir
c'est
leur
pas,
poser
c'est veut. Pas un problème ça, parce que bon, il y a aussi les autres grosses radios, les radios
mais tout le monde
j'allais
a le droit
dire
à ça.
Radio France, RMC qui sont les radios officiel, quoi.
Alors eux, ils seront en vitrine. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils ont leur studio qui vont être à la Villette, côté public. Nous, on sera cachés, mais ça ne me dérange pas. Parce qu'en fait, nous, on ira dehors pour parler avec les gens et les inviter après aux émissions. Et en fait, nous, l'intérêt, c'est surtout l'accès au... Ce qui nous intéresse, c'est de raconter la vie des athlètes.
Bien sûr.
Et donc, les avoir avec nous en one-to-one, donc face à face, en studio, parce qu'il y aura un chemin de presse. Ça nous intéresse. Et surtout, c'est qu'on va pouvoir créer des choses, du contenu qu'on va pouvoir fournir à d'autres, soit tu parlais d'économie tout à l'heure, soit de le vendre, soit de l'offrir à certains partenaires, parce que l'idée c'est aussi de partager et de pouvoir préparer la suite. Et on fera ça, que ce soit pour les jeux ou les para-jeux, on sera aux deux. Et après on aura un deuxième studio, en fait on a un deuxième studio qui est en cours de discussion, qui sera au cœur de Paris, dans un lieu emblématique. Et là on aura peut-être, parce que j'ai obligé de dire peut-être pour l'instant, une belle émission, pareil, avec un partenaire premium. On verra, mais quoi qu'il arrive, on vous partagera le cœur de... On fera pas forcément comme toi, tu seras en place de commentaires de course. Nous, on fera pas forcément les commentaires des épreuves.
Oui,
parce qu'il y en a qui vont le faire très bien.
Oui, bien sûr.
Nous, on va raconter après.
Oui, c'est,
voilà.
Oui.
On va faire raconter.
Entendre, comme vous dites,
on va faire raconter les épreuves par les athlètes, par les fédés, par les entraîneurs, par ceux qui vont regarder des images en disant oh, il va se vautrer. Nous, c'est ça qu'on va raconter.
Les familles qui vont être présentes aussi, qui vont vivre ça. Voilà.
On va raconter plutôt les coulisses. Parce que ceux qui vont commenter vont être très bien. Ils seront très bien sur place. Il y a des radios qui vont faire que ça, des télés qui vont faire que ça. Donc, et on sait très bien aussi que les gens vont regarder plutôt la télé. Sur les épreuves, tu regardes les épreuves. Tu les écoutes, oui, quand tu es dans ta voiture, quand tu as l'habitude d'écouter. La magie de la radio, et vous le savez, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps.
Ben oui.
Ça, c'est magique. D'abord, c'est si vous fermez les yeux, la radio, on peut vous faire rêver. Si là, je prends ma voix suave et que je demande à la technique de nous mettre une bride vague, et je peux vous dire qu'on est en direct en Martinique, on vous raconte ça. Voilà, c'est la magie de la radio, elle est là. C'est qu'on peut vous faire vivre un truc qui est génial. En revanche, ça impose un truc. C'est que vous devez me faire rêver. C'est-à-dire que moi, quand je vais écouter la radio, moi, je veux rêver. Je veux que le mec, il me raconte ce qu'il voit. Donc nous, on sera les yeux des gens qui vont nous écouter. Et l'avantage, c'est que nous, on sera filmés, donc ils pourront voir en plus. Et l'idée, c'est ça, c'est que raconter...
Oui, parce que ça, il ne faut pas oublier, c'est la radio filmée.
Oui, c'est la radio filmée.
L'avantage que, voilà,
c'est nous, on a mis des caméras, parce que l'idée, c'est...
Radio Sport, et puis du digital, c'est que c'est radio filmée, quoi.
Oui, parce qu'en fait, il y a une obligation aujourd'hui, et je le vois qu'il y en a une là aussi, c'est que s'il n'y a pas la petite image qui va bien, la petite phrase qui peut être remontée pour venir chercher plus, c'est plus difficile. Et l'idée, c'est qu'on a tellement de choses à raconter en vidéo, parce que nous, on a des choses drôles à raconter en vidéo. On a des gens, si vous voulez voir un jour, en ligne de compte, dire une bêtise en train de jouer, venez chez nous, on a un beau petit moment de rigolade. Et l'idée c'est de la vidéo, c'est de partager ces moments-là, parce qu'en fait, il y a des moments qui sont d'émotion. J'ai eu la chance de faire plusieurs Olympiades, et moi, j'ai vu des athlètes au bord des larmes quand ils viennent vous raconter leur épreuve. Parce qu'en fait, vous avez le moment de sortie de l'épreuve, où ils sont encore avec l'adrénaline qui est à fond. C'est épidermique, ça. Ils ont les poils qui sont hérissés, ils sont même essoufflés, vous les écoutez, vous avez des fois du mal à parler. Et tout d'un coup, quand vous les avez plus tard, ils ont relâché la pression. À un moment, ils viennent de comprendre ce qu'ils sont devenus. Ils sont devenus une médaille ou ils ont raté une médaille. Et l'émotion, elle est décuplée. Il y a la raison qui rentre. Et là, vous avez la réflexion qui vient. Et quand vous faites une interview et que vous avez la personne en face qui tout d'un coup va tout relâcher et vous avez les yeux qui commencent à partir, vous avez les pupilles qui s'ouvrent, l'émotion qui part. Et là, ça a montré. Ah, mais à l'écouter, c'est extraordinaire. Voir le doute de la personne, tout d'un coup, les sanglots dans la voix et autres, c'est extraordinaire. Mais quand vous avez l'image qui vient se coller là-dessus en disant, là, à ce moment-là, là, vous savez que tout ce qui est dit, c'est vrai. Et que là, c'est génial. Et ça, on s'est dit, on ne peut pas ne pas le faire.
Très bien. Allez, on va marquer une petite pause. Michel Sardou, les lacs du Connemara, comme bon c'était ses adieux ce week-end.
Il est en concert, oui.
Voilà. Donc, allez, Michel Sardou. Et ensuite, on va voir Julien Combes pour faire un petit peu le bilan du tournoi Destination.
Brûlé au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix, Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara.
Sean Kelly s'est dit, je suis catholique, Maureen aussi, l'église en granit de Limerick, Maureen a dit oui. De Tipper, Harry, Barry Connolly et de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connolly, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry et de quoi boire trois jours et deux nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara, on dit que la vie, c'est une folie, et que la folie, ça se danse. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore au temps des Gaëls et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs qu'on voit nager certains soirs d'été et replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un coup de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix de la guerre.
Voilà, allez, on va revenir quelques mois en arrière avec notre ami Julien Combes. Hein. Que de bons souvenirs sur ce mondial de rugby en 2023. Julien, bonsoir. Ouais, ça va Julien, hein. On va rappeler, donc responsable de la cellule formation de, au Stade français. Bon alors, le bilan de ce tournoi, Julien, hein, mes figues, mes raisins.
Alors, Alors, je vois que tu as mis une belle musique
oui.
à la mi-temps de ton
oui.
émission.
Oui, oui.
Voilà, pour féliciter l'Irlande, à mon avis. Donc, bravo.
Voilà.
Donc, on peut dire bravo à l'Irlande déjà.
Oui, ouais, ouais, ouais. La meilleure équipe. Bon, la prestation de cette équipe de France, deux derniers bons matchs. Par contre, bon, c'est vrai que ça n'avait pas très bien commencé, c'est moins qu'on puisse dire.
Non. Alors, pour l'équipe de France, ça a été un tournoi très, très, très compliqué. On finit deuxième du tournoi, mais bon, incroyable quand même ce dénouement, comme tu dis, avec ces deux derniers matchs et ces deux victoires hein, qui auraient pu aussi tourner sur deux défaites. Donc, c'est vraiment voilà, un bilan qui est quand même mitigé, un bilan au niveau du résultat qui est plutôt positif, deuxième du tournoi, mais un bilan global sur le contenu qui est mauvais.
Bon, Julien, c'est parce que finalement, l'élimination en quart de finale n'était pas encore complètement disparue pour certains des esprits.
Oui, je pense.
Hein, franchement, inconsciemment, dans l'inconscient.
Les trois premiers matchs ont montré quand même une défaillance mentale, totale, en fait, de l'équipe de France. Là, un engagement qui n'était pas présent. Donc, bah, ça s'est ressenti sur ces trois premiers matchs.
Oui, et puis le fait d'avoir justement apporté après du sang neuf, c'est-à-dire des joueurs qui n'avaient pas participé à cette Coupe du Monde, ça a permis de retrouver quand même cet état d'esprit côté français de la victoire.
Oui. Donc, les quelques jeunes qui ont intégré l'équipe de France ont fait du bien. Nolan Le Garec, Léo Barré aussi. Je pense que les joueurs aussi qui ont participé à ces Coupes du Monde ont digéré aussi sur ces trois premiers matchs aussi. Je pense qu'il y a un regain aussi physique et mental pour l'ensemble des joueurs sur les deux derniers matchs aussi. Hein. Je pense que voilà, ils ont évacué certaines choses sur les trois premiers matchs.
Et puis vous, au Stade français, dans quel état d'esprit vous allez récupérer vos joueurs? On se rappelle de Paul Gabrielag, hein, qui avait marqué contre l'Écosse l'essai, et puis Barret aussi, hein, derrière, qui a bien fini ce mondial.
Non, pour nous, c'est tout bénef. Hein,
oui, bien
sûr. Au Stade français, là, on est plutôt très bien. Au classement, on est sur une bonne dynamique. Ouais. Léo qui va rentrer pour participer à la fin de la compétition, ça va nous faire du bien aussi. Donc nous, on est très contents pour Léo Barré, Paul aussi très content sur les deux premiers matchs qu'il a pu faire en équipe de France. Et voilà, c'est très bien pour le Stade.
Oui, parce qu'on va rappeler qu'il avait marqué l'essai contre l'Écosse, hein, Paul Gabrielag.
Oui, complètement. Léo aussi qui marque sur ce dernier match aussi. Donc nous, on est très satisfaits.
Bon, côté Stade français, donc on prépare maintenant la fin de saison, le bouclier notamment.
Eh ben, on espère tous. Hein. Déjà, l'objectif, donc, c'était de se qualifier, hein, de rentrer dans les six premiers. Là, on est plutôt bien parti. L'objectif, c'est d'aller directement en demi-finale. Pareil, si on ne fait pas d'erreur là, sur les matchs à domicile, sur les cinq matchs qui nous restent à domicile, eh ben, on sera, je pense, bien parti pour éventuellement faire une demi-finale de top 14, là, qui serait super.
Bon, Julien, s'il y a le bouclier, il faut venir avec hein, dans nos studios.
Ça, c'est sûr,
je sais qu'il est lourd, mais bon, je sais qu'il est lourd.
Il est costaud.
Juste un petit mot sur l'équipe de France. Il y a malgré tout une tournée donc, en Argentine, au mois de juillet. Pendant l'Euro, pendant le Tour de France donc, et avant les Jeux, donc ça va être très chargé.
Non, c'est clair, c'est un mois de juillet qui va être très chargé. Pour l'équipe de France aussi, ça va être la possibilité aussi de voir de nouveaux joueurs voilà, qui s'aguerrissent aussi en Argentine. Donc, voilà, peut-être les laisser des cadres aussi au repos pendant cette période-là. À voir la stratégie là, que va mettre en place Fabien Galthié là, pour cette tournée.
Oui. Et puis, il y aura le rugby à 7 au jeu. Hein, tout cette derrière cette équipe de France, et notamment avec Dupont.
Oui, Dupont qui fait deux superbes tournois, les deux premiers tournois là sur la côte américaine et voilà, il a été au niveau qu'on l'attendait, il a insufflé je pense aussi un vent de compétition, d'envie de gagner aussi et après c'est un gros travail aussi qui est fait par la Fédération française depuis plusieurs années pour accompagner ces joueurs-là à être au top pour ces JO, c'est vraiment l'objectif ultime là de la Fédération française.
Bon, Julien, pour finir, tu sais qu'on a un invité qui a fait des émissions sur le rugby pendant la Coupe du Monde à Osgore, là-bas.
Ah, c'est qui? J'ai pas entendu. Excusez-moi, j'étais pas au début.
Non, mais c'est pas. Je vous en veux pas. Je vous rassure.
Ouais. Ouais.
Enchanté. Moi, c'est Fabrice et on a créé Radio Sport avec Christophe Paco qui pilote l'émission chez nous de tous les événements. Voilà. Et on a fait la Coupe du Monde de rugby. On a trouvé un petit studio là-bas.
Ouais, c'est ça. Hein. C'était près de Osgore. Hein, c'est ça. Hein.
On était à Osgore pour être précis. Ouais.
Bah, ils ont fait comme nous. Nous, on a invité tous les clubs parisiens. Voilà. Merci.
Non, on n'était pas Osgore, nous.
Ouais. Non. Mais merci Julien en tout cas. À très bientôt. Merci pour tout. Voilà,
avec
à très bientôt.
Bonne
merci.
Fin d'émission.
Voilà, donc, et puis on va rappeler donc, l'Irlande qui a remporté le tournoi destination avec 20 points devant la France, deuxième 15 points, troisième l'Angleterre 14, quatrième l'École 12 points, cinquième l'Italie 11 et sixième le Pays de Galles qui termine 4 points, la cuillère de bois. Hein. C'est-à-dire qu'elle a perdu ses 5 matchs.
Bah oui, ça arrive.
Voilà. Allez, on passe au badminton maintenant, Vanessa. On avait fait un petit bilan la semaine dernière donc, des internationaux de badminton hein, qui se sont déroulés à l'Adidas Arena.
Porte de la Chapelle, oui.
Ouais, Porte de la Chapelle.
Adidas,
donc, donc tu avais promis de nous ramener tout plein d'interviews. C'est ce que tu as fait.
Exactement. Ouais. Et ça a été un grand plaisir. Mmh. Ça a réuni 22 000 spectateurs.
Oui,
le
même.
Gratin, quand même, du badminton mondial, il faut le préciser. Et nos Français, quand même, qui dans l'ensemble ont bien brillé, sachant la configuration des tirages au sort, puisqu'ils sont quand même tombés sur des têtes de série mondiales dès les 16e de finale. En 8e de finale, Ronan Labarre et Luca Corvée ont été qualifiés. Et puis en quart de finale, Tom Jiquel et Delphine Delrue ont été jusqu'au quart de finale dans une Adidas Arena enflammée.
D'accord. Donc, voilà. Les interviews que tu nous as ramenées sont lesquelles?
Alors, tout d'abord, Thomas Junior Popov, en 16e de finale, qui a perdu son match contre Kim Nulo, le Singapourien,
Elle l'a bien dit.
numéro 12 mondial. Ouais. Donc, pour un premier set un peu compliqué, 14-21, mais après, un meilleur deuxième set, 21-23, pour le Français.
Découverte hier, c'était quoi les premières impressions il y a de faire ce match-là? C'était
Il y a
des conditions.
Les conditions. Voir le gymnase, c'est sûr que ça fait un grand waouh parce qu'elle est gigantesque. Après, je pense qu'on est habitué vu qu'on a plein de tournois en Asie où les salles sont plus grandes. Et c'est beaucoup plus impressionnant, mais là, comme elle est toute neuve, ça fait vraiment un effet.
Ouais, tu disais, on est un peu condition olympique, c'est qu'on s'y revoit dans 5 mois, là, dans cette salle.
On s'y revoit, on s'y projette, même si pour le moment, c'est mon père qui cale les pieds. Je vois tout pour. De dépasser, être qualifié, on n'a pas tous les deux ce qu'on peut pour se qualifier en double.
Ouais, parce que là, chaque tournoi du coup est important, il y a une recherche de points, et là, tu ressors quoi avec un peu de déception
Finalement, pas trop, parce que le deuxième set était plutôt. Voilà, j'ai failli le tourner en ma faveur. La semaine dernière, j'ai pas fait un bon tournoi dû à mon dos, c'était un peu sérieux. Là, j'ai quand même réussi à jouer, donc c'est plutôt positif et hâte de jouer au Holland.
Comment tu vis là justement comment tu as vécu ces dernières semaines où avec Christophe ça va être la bataille jusqu'au bout?
Très bien, comme depuis le début de la qualification, il n'y a rien qui va changer et on va tous les deux se pousser pour
passer dans le match. Cette salle, quand tu l'as découverte hier, c'était quoi les premières impressions il y a de faire ce match?
Voilà, donc ça, c'était des interviews
Thomas
en poule.
Junior Popov,
il faut le dire, hein, c'est des interviews en poule. Est-ce
Exactement.
Que les Français, dans l'ensemble, ont brillé?
Comme je le soulignais tout à l'heure, moi, je pense qu'ils ont brillé au vu de la configuration. Honnêtement, je trouve que c'est bien sûr on peut faire mieux comme le président de la fédération l'a souligné, mais dans l'ensemble je trouve que c'est un bilan plutôt satisfaisant, voire satisfaisant encore une fois au vu de la configuration. Et puis on a eu des matchs, de très beaux matchs aussi.
Alors là c'est la deuxième interview, c'est le frère
c'est
cadet, voilà, Christo,
cadet
hein,
Christo
c'est ça
le lendemain qui disputait également ses 16e de finale.
Allez, on y va.
Tu parlais de se projeter justement dans 5 mois, il y a les JO ici, ça donne envie de revenir?
C'est envie de revenir, envie de jouer et envie de performer. Et voilà. Comme tout sportif, je pense que se qualifier aux Jeux, c'est une grosse étape de sa carrière. Et si on peut performer, tant mieux. Quoi.
Il reste moins de 2 mois avant le Final Cut pour le tennis. C'est forcément la grosse pression maintenant. Pour le match que les uns après les autres.
Match après les autres. Hein, si on commence à se mettre la pression, on ne pourra plus jouer. Donc c'est plus le tournoi après les tournois, match après match. Et de toute façon, je pense que ce sera le championnat d'Europe à Sarbonne qui va être décisif pour toutes les. Pour toutes les nations européennes.
Parfait.
Justement, comment tu avais préparé ce match?
Je l'avais préparé plutôt bien. Surtout que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop savoir contre qui joue à part la veille. Comme ça, je me focus sur ma préparation et sur moi-même. Tout s'est très très bien préparé, surtout avec le dos, avec toute mon équipe derrière. Donc c'était pas mal.
Et là, pour demain, sur quoi tu vas essayer de te concentrer ?
Sur la récupération et sur essayer d'être le plus frais possible demain. Et surtout, c'est Christo qui va se préparer parce qu'il aura deux matchs demain. Moi, j'en ai un par jour. Lui, il en a deux dans la même journée. Donc, c'est pour lui que ça va être plutôt compliqué.
Merci.
Comment tu vois le match de Christo contre le numéro 2 mondial ? Est-ce qu'il a un coup à jouer, tu penses ?
Bah, il est en forme, mais il est en forme dans un autre gymnase avec des volants lents. Là, il y a beaucoup de vent et je pense que c'est lui qui s'adaptera le mieux qui va le remporter.
Voilà, et
c'était
puis,
Thomas Junior Popov, petit
c'était précis. Thomas Junior oui, Popov. Et d'ailleurs, un des frères Popov a fait un bel exploit en Angleterre. Là.
Tout à fait. Oui. Et, donc Christo, il a été jusqu'aux demi-finales, chose qui n'était jamais arrivée pour un Français depuis Brice Leverdez en 2016. C'est vraiment un très bel exploit. Hein. L'Open d'Angleterre, All England, il existe depuis 125 ans. C'est un super 1000. C'est la plus grande classification dans
c'est
les tournois
Roland
de badminton.
Garros ou le Wimbledon de
exactement,
du badminton.
Et
hein.
Voilà, un tournoi très prestigieux, des beaux matchs. Je précise que Christo, il a battu en quart Koki Watanabe, qui avait défait son frère la veille. Et puis après, il s'est incliné face à Anthony Ginting. Mais quand même un match intéressant.
Alors, la troisième interview, c'est celle du double français, hein, je crois. C'est ça ?
Ou de Christo Popov.
Oui, oui. Vas-y.
Oui, tout à fait.
Non, mais vas-y,
alors, sur le double messieurs, donc, il y avait Ronan Labarre et Lucas Corvée qui ont battu les Malaisiens Mohamed Hassan et Endra Saitawan. Ils sont multititrés. Ils sont trois fois champions du monde. Et pour Endra Saitawan, il est champion olympique en 2008 avec son ancien partenaire Matrice Kido.
D'accord. Donc,
vous attendiez un match difficile aujourd'hui, ça s'est confirmé pour cette entrée en match.
Oui, en tout cas, je joue numéro 2 mondial, il était très performant mois de janvier. Maintenant, il arrive tout frais ici et on sent qu'il est en forme, il a été très précis sur tous les coups. Et bon, j'ai essayé de faire ce que je pouvais avec l'état de forme d'aujourd'hui. Je pense que j'ai bien poussé et on a fait des très bons rallyes, il y a eu de la bonne qualité de jeu. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, il était juste meilleur. Hein. Voilà, c'est tout.
On a senti que c'était un match exigeant physiquement, vous avez beaucoup couru, il y avait beaucoup de...
Oui, comme je dis, il a très bien joué. Moi, la seule façon de pouvoir contrer ça, c'était vraiment d'être patient. Et le fait d'être patient, ça rentrait sur des longs rallyes, là où je pouvais le pousser à la faute. Donc malheureusement, ce n'était pas un plan de jeu, un bon plan de jeu pour moi aujourd'hui. Mais c'était le seul que j'ai réussi à trouver et puis j'ai tout donné.
Comment on bascule d'une victoire sur un Super 300 à redémarrer une compétition quelques heures plus tard? Dès lundi, tu étais déjà sur les cours à t'entraîner. Là, tu repartais sur un Super 750 contre un gros client.
On va dire que c'est le métier. Je pense qu'on s'est fait petit à petit. C'est la première fois que ça m'arrive de gagner un Super 300, donc c'est la première fois que j'enchaîne comme ça. Mais on enchaîne quand même dans tous les cas de la même manière, c'est-à-dire même si on perd premier, deuxième ou on gagne le tournoi. On va enchaîner sur la prochaine compétition, toute une histoire d'entraînement entre et d'adaptation aux conditions de jeu. Et aujourd'hui, franchement, la salle était vraiment nickel.
Après toi, bonjour. C'est la première. Enfin, t'as joué dans de nombreux stades dans le monde. C'était la première fois que tu jouais ici. Qu'est-ce que tu as pensé de cette salle ?
Moi, je pense que c'est une salle digne des Jeux Olympiques. Franchement, des bonnes conditions de jeu, en tout cas aujourd'hui, et une très belle salle en général.
Qu'est-ce que tu as pensé de l'ambiance ?
Les Français étaient derrière moi et c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Ça m'a poussé à me donner à fond et d'aller chercher les dernières ressources énergétiques pour faire des bons rallyes. Et sans eux, peut-être que j'aurais pu perdre plus facilement, on va dire, aujourd'hui.
Ça donne envie d'y rejouer dans 6 mois ?
Ça me donne envie d'y retourner cet après-midi déjà en double. Mais oui, dans 6 mois, ça me donne forcément envie.
Et justement, comment tu abordes le match de cet après-midi ?
Là maintenant c'est passe kiné, manger, parce que je n'ai pas mangé à midi, il y a eu un peu de retard sur les matchs. Et puis préparation pour le double homme avec mon frère.
Et comment on travaille pour récupérer entre le grand chelem que tu as fait dimanche et puis là tout de suite d'enchaîner sur les internationaux de France?
Comment on enchaîne? C'est plus du repos, on a essayé de jauger l'entraînement. Jauger l'entraînement, bien sûr, on a fait un peu moins d'entraînement, mais en restant sur de la qualité, et on a essayé qu'aujourd'hui je sois apte à jouer, en tout cas sans qu'il y ait risque de blessure, parce que la semaine dernière c'était très, très compliqué pour le corps. Je pense que la mission est accomplie, même s'il y a une défaite au bout, je pense que voilà, j'ai rien à regretter aujourd'hui. En simple.
Voilà, alors maintenant, on va passer au double français.
Hein. Tout à fait. Ronan Lavard et Lucas Corvée.
Et alors eux, ils ont fait des bons internationaux ?
Oui, des bons internationaux. Ils ont été jusqu'au huitième de finale. Mmh. Et comme je le disais tout à l'heure, ils ont battu Mohamed Hassan et Endra Saitawan, multititrés, je répète de nouveau. Et juste une petite précision, Christo Popov était tombé sur le numéro mondial d'entrée sur les 16e de finale. Donc, il s'est incliné en 2-7. Mais voilà, tomber sur le numéro 2 mondial dès l'entrée, c'est coriace.
Allez, cette fois-ci, nos amis du double français, on les écoute.
À bien se trouver, à bien trouver les conditions. Hyper content de sa victoire.
C'était quoi le plan de jeu aujourd'hui, justement, pour réussir à aller chercher cette paire indonésienne très expérimentée?
Ça fait trois fois qu'on les joue. Ça fait trois fois qu'on essaye de se dire qu'il faut absolument qu'on arrive à agrandir le terrain si on veut avoir une chance. Ils sont vraiment très très forts dans les premiers coups et dans le petit jeu. C'est un peu là où ils sont spécialistes depuis des années. Aujourd'hui on a réussi un peu mieux que les autres fois. C'est pas évident de mettre en pratique ce qu'on a envie de faire. Et là ça a marché, je pense que ça paye un peu aussi sur le dernier set où ils étaient un peu plus fatigués que nous. Donc voilà.
Il y avait ce public aussi, on vous a vu prendre du temps là à la fin, ça vous a poussé aussi ça, pour aller chercher cette victoire?
Ouais, ça nous aide à rester calme, lucide, à se dire qu'on joue pas toujours que pour nous aussi. Et puis voilà, après on est un peu triste de ne pas pouvoir signer des autographes pour tout le monde, c'est vrai que c'est toujours un crève-cœur. Mais il y aura sûrement un moment plus tard dans la compétition pour remercier tous les fans et tous les gens qui nous ont encouragés.
Et cette Adidas Arena, alors, là, on sent comment là-dedans, puisque c'est là où vous allez potentiellement être au jeu, elle est comment cette salle?
La salle est magnifique. Ça nous rappelle un peu les salles asiatiques ou le All England, des salles très grandes, avec beaucoup de volume, très facile à jouer, des belles conditions. Donc c'est top, on espère la voir de plus en plus remplie, et puis pourquoi pas pleine pour les jeux si on se qualifie.
Et toi, Lucas, ces conditions de jeu là dans cette nouvelle salle?
Ouais, parfaite, les sièges sont noirs, la salle est noire derrière, donc la vision elle est parfaite. Les lampes ne gênent pas trop, il y a très peu de vent, donc c'est hyper agréable de jouer. On a cette sensation que la salle est beaucoup plus grande que la précédente, les ISB. Donc c'est des conditions qu'il faut s'adapter, mais on a l'habitude comme dire on joue dans très grande salle comme ça maintenant. Les salles asiatiques, le All England aussi qui est très grand, donc voilà, ça ressemble un peu plus à ce genre de salle.
La qualif olympique, il reste encore 4-5 semaines, ça va être assez dur face aux frères Popov. C'est un message que vous avez envoyé aujourd'hui à Christo et Tommy?
Un message, je ne sais pas, c'est en tout cas sûrement des points cruciaux. Ça va nous faire prendre un petit peu d'avance en attendant leur match de ce soir. Mais il reste 5 tournois, il peut se passer des bouleversements à chaque tournoi, c'est la beauté du sport. Donc on va juste essayer de continuer à jouer au bag, à faire ce qu'on sait faire, à essayer de le faire le mieux possible. Et ça nous amènera peut-être à d'autres victoires comme celle d'aujourd'hui.
Comment vous gérez justement tout ça là, c'est les prochaines semaines qui vont arriver et cette qualif face à Christo et Tommy?
Ouais, c'est un calendrier qui est bien rempli, c'est le cas depuis mai dernier. Là honnêtement ça fait du bien de rester en Europe pendant 5 semaines, avec beaucoup moins de voyages et des trajets qui sont beaucoup plus courts, donc ça fait vraiment du bien, cette tournée là est très sympa. C'est la fin en plus, donc là on va tout donner chaque semaine pour essayer de remporter le plus de matchs possible, se concentrer sur nous, essayer de jouer le meilleur niveau possible, gagner des matchs.
Voilà, Fabrice, c'est des sports que vous allez particulièrement suivre sur Radio Sport. Hein. C'est le joueur de profil, le badminton, c'est le sport.
En plus, c'est un sport magique.
Oui.
Parce que le badminton, tu sais que c'est quand même le sport de tous les records.
Oui.
493 km/h,
oui.
C'est le record flashé, oui, du volant. Il n'y a rien qui va plus vite que ça. Imaginez-vous 493 km/h. Si vous le prenez dans l'œil, ça va faire mal. Hein. Et c'est l'un des sports les plus rapides parce qu'en fait, un échange de 10 secondes, ils peuvent faire 12 à 15 échanges. Enfin, c'est un truc de malade.
Ouais,
hein.
C'est très bien, ça.
Il faut être physique. Hein.
Je crois que j'avais vu le plus long échange, c'était 266 shots.
Ouais.
Et c'est pour avoir vu tous les matchs, c'est vraiment impressionnant.
Ouais. Alors, Vanessa, on parle des dames, non?
Exactement.
Ouais.
Donc, notre paire de double dames, Margot Lambert et Anne Tran, qui sont tombées encore d'entrée sur les japonaises numéro 6 mondiale, Matsuya Machida. Les Matsuya Machida qui tout de même ont été finalistes dans un match haletant en finale de double dame contre les Finnoises. Donc très sincèrement, encore une fois, elles sont très conscientes de leur axe de progression et puis c'est des choses à prendre, on va les écouter.
Oui.
Comment vous avez vécu ce match très serré ?
C'est incroyable de vivre ce genre de match parce que déjà c'est à domicile, c'est rare dans l'année. On n'a pas gagné énormément de matchs sur cette scène-là, donc de le faire ici dans la nouvelle salle à domicile, c'est que du bonheur. Plus de ça, quand c'est serré, ça donne un peu plus d'adrénaline et puis de jeu pour le public, donc c'est très agréable à vivre.
Et être ici à la Arena, ça vous donnait quelque chose de plus ? Est-ce que vous avez ressenti
De plus que les précédentes.
Voilà, qu'est-ce que vous avez ressenti ici sur cette compétition ?
Non, mais on approche la même façon que les présentes éditions des IFB. Là, on sait que ça va être la salle pour les jeux, donc ça nous donne encore plus envie d'essayer de trouver nos marques et voilà. Mais non, c'était la salle est superbe en tout cas.
Et là, comment vous voyez la suite sur le tournoi ? Comment vous allez vous préparer ?
Là, on va se reposer, on va faire un débriefing du match et on va se préparer pour demain. Ça enchaîne très vite, donc il n'y a pas trop le temps de trop savourer. On va préparer le match pour demain maintenant.
Voilà, on va préparer le match pour demain. Alors maintenant, on va suivre l'interview suivante qui, je pense, devrait être le double dame. Non, c'est ça, Vanessa ?
Oui, totalement.
Allez, on y va. On écoute. Allez, verdict.
Tout d'abord, moi, je dirais que c'est la déception de ne pas rejouer devant le public français. Ça me tient vraiment à cœur de jouer devant ma famille, mes amis et tout le public. Donc c'est vrai que là, c'est surtout une grosse déception de ne pas pouvoir rejouer comme on l'avait fait à Rennes l'année dernière. Et ouais, la déception aussi d'être passé à côté de ce match. Je dirais qu'elles ont très très bien joué et que voilà, il va falloir qu'on hausse notre niveau de jeu pour aller chercher ces paires-là.
Dans le deuxième, vous faites le gain du jeu, mi-7, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Ce qui se passe, c'est qu'on fait un peu des erreurs de tactique, des coups qui n'étaient pas forcément là où il fallait, et aussi on fait des fautes.
Qu'est-ce qui vous sépare encore des paires comme celles où vous venez de jouer ? Parce qu'on sent que vous battez des paires de plus en plus fortes. Est-ce qu'il y a encore des choses où vous vous dites ça, il faut qu'on améliore ça pour arriver à battre des paires comme celle-ci ?
Oui, on pense toujours à nos axes de développement. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à améliorer tout le temps. Donc là, on a des axes précis en ce moment qu'on essaye de mettre sur chaque compétition. Après, je dirais qu'il y a un petit gap peut-être dans la consistance et dans la régularité de jouer à une vitesse comme celle-là. Mais on sait qu'on est capable de les challenger, on sait qu'on est capable de gagner ces matchs-là. On va encore travailler dessus et s'améliorer.
Anne, comment tu juges cette nouvelle salle ?
C'est une très belle salle. Hein. L'ambiance elle est très cool. À chaque fois, on rentre sur le terrain, on entend les Français qui nous encourage et c'est toujours top. C'était très agréable de jouer dans cette salle.
Et la salle en elle-même, les conditions de jeu par rapport à ce qu'on t'a connu ?
C'est une salle. Je dirais que c'est un bon mélange entre le rapide. C'est ni trop rapide ni trop lent. Il y a des phases de jeu où le volant il peut quand même sortir, etc. Dans le jeu à plat. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place, je pense, dans cette salle. Pour y jouer, c'est très bien.
Ça va être quoi la clé sur les semaines qui viennent justement pour chercher cette qualification ?
S'il reste 4 compètes. Ouais. 4 compétitions, donc la clé ça va être de tout faire pour gagner le plus de matchs possible et de pouvoir gagner des points. Pour l'instant on est dans les quotas, mais ce serait bien qu'on y reste jusqu'à la fin de la qualif qui se termine par les championnats d'Europe. Donc ça serait bien de aussi terminer, pourquoi pas, sur un titre aux championnats d'Europe.
Voilà, terminé au championnat d'Europe. On va quand même rappeler que juste avant, ce qu'on avait entendu, c'était donc...
Ronan Labarre et Lucas Corvi, en double de messieurs.
Et cette fois-ci, on écoute donc la dernière interview ramenée, Vanessa.
Tom Jiquel et Delphine Delru, qui ont eu un très beau match, et puis qui ont été jusqu'en quart de finale.
Très bien, allez, on les écoute.
Cette victoire-là, elle fait plaisir, elle fait du bien aussi, non ?
On est un peu soulagés d'avoir gagné en plus à Paris. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas gagné de 7 et encore moins de matchs. Du coup, on est vraiment super contents d'avoir pu faire ça devant notre public et dans la nouvelle salle de jeu.
Ouais, c'est de jouer justement dans cette salle devant le public. Ça a aidé aujourd'hui pour venir chercher cette victoire ?
Ouais, je pense que ça a beaucoup aidé. Comme on était dans un moment de doute depuis le début d'année,
revenir aux bases devant la famille et les copains, ça fait du bien et on avait envie de bien faire et ça nous a donné cette extra motivation qui fait la différence dans le premier set où c'était un peu dur tout le premier set, mais finalement on est resté calme et on s'est soulevé et au final ça a été un grand pas vers la victoire le premier set.
Cette semaine-là va être importante justement au vu des jeux, de retrouver de la confiance et de votre niveau de jeu aussi à tous les deux.
Déjà l'entraînement depuis quelques temps ça va beaucoup mieux, mais maintenant il faut gagner des matchs pour retrouver la confiance au tournoi. Et du coup ça passe par cette semaine, faire un bon résultat ici chez nous, assurer une qualif, peut-être avec un très bon tournoi cette semaine, ce serait top. Donc c'est important pour nous.
Et dans cette salle, la salle des jeux, quand on est rentré hier, quand vous l'avez découvert, quelle heure sur le match, comment vous êtes senti, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette salle?
Elle est magnifique, franchement, elle est grande, mais on se sent quand même assez proche du public, donc c'est cool. On a l'impression de les voir et c'est cool, mais et en plus elle est très classe, très noire, l'ambiance un petit peu électrique comme ça, c'est très sympa. Et de l'extérieur, elle est magnifique.
Ouais, super satisfait et un mix entre très heureux et soulagé parce que 2024 était commencé par 3 défaites en 3 tournois, donc là ça fait plaisir de regagner. Il y a forcément un peu plus de pression en plus quand on est à Paris parce qu'il y a beaucoup de monde qui nous attendent, donc très heureux.
Sur le papier, c'était un match équilibré. Est-ce que c'était les bons adversaires justement pour démarrer un tournoi?
C'était un match pas facile parce que la dernière fois qu'on a joué, on avait perdu assez sèchement, donc on avait ça un petit peu dans notre tête, mais on a appris beaucoup du dernier match et c'est des adversaires qu'on connaît bien, je trouve qu'on les a joués 7 fois, 8 fois. Donc, mais c'est un bon match pour commencer parce qu'ils jouent beaucoup les rallyes, etc. Donc ça nous permet de nous mettre dedans. Donc c'était un bon match.
Est-ce que vous aviez revu ce match-là justement en Inde pour savoir comment mieux les jouer cette fois et corriger un peu certains?
Forcément, on a regardé, ça a fait mal, hein, mais on était obligés. Après, les conditions étaient complètement différentes en Inde, c'était très 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 lent. Là par exemple on a quand même l'attaque passée au final, il y avait quand même pas mal de fautes de lob alors qu'en Inde c'était pratiquement possible de finir, donc les conditions étaient différentes mais on s'est forcément inspiré de leurs points forts parce qu'ils jouent quand même régulièrement de la même façon.
Il y a un point en fin de premier set, de l'extérieur, on a l'impression qu'il a été un peu décisif dans le match. Je crois que c'est à 18-18 où c'est un long point. Est-ce que vous avez eu le sentiment de prendre l'ascendant à ce moment-là par rapport à l'extérieur?
Ouais, je pense que ce point il a fait du bien parce qu'on était un peu derrière tout le set, il me semble. Du coup, repasser devant à toute fin avec un point comme ça, ça nous a bien aidé avec le public qui s'est enflammé et tout. Donc, c'était un tournant, je pense, du set, ouais.
Justement, comment on aborde le deuxième set quand on vient de gagner le premier, comment on garde la tête froide?
Là, je pense qu'on s'est dit que le plus dur nous attendait parce que c'est facile de s'arrêter après le premier set. On est un peu soulagé en passant fin devant et on peut se relâcher. Et là, on s'est dit justement qu'il nous fallait encore un set, et c'était, ou deux ou trois d'ailleurs, mais que c'était le plus dur était devant nous. Et on a continué, on est resté focus et finalement, on a encore mieux joué. Donc,
Voilà donc pour ces interviews ramenées par Vanessa. Alors on complétera la semaine prochaine Vanessa avec une interview d'une bénévole et puis on fera le bilan avec le président de la Fédération française de badminton qu'on
Exactement.
A vu au téléphone.
Voilà. Tout à fait.
Allez, on écoute la musique. Jackie Quartz, juste une mise au point. Et ensuite c'est notre ami Stéphane Dezenclos pour la page hebdomadaire foot.
C'est l'heure où les souvenirs se ramènent, juste quand le sommeil se met en grève. Le blues en profite pour s'installer. Quelques verres de vin blanc pour exciter le manque, et on se repasse le film sur un air de romance. On revoit les débuts et on connaît la fin. Bon, ça c'est mon côté pessimiste. Je préfère penser que c'est une histoire sans fin, si ça vous dérange pas trop. Oh, pour une fois. Bon, je laisse tomber le couplet sur l'amour immortel, ça ne concerne pas grand monde. Puis de toute façon, la mort d'un amour donne la vie à un autre. Il y a déjà moins de soucis à se faire. Tiens, le bar tabac de la rue Clichy, où tu t'envoies ton petit crème. Je le connais par cœur. Je peux même le dessiner les yeux fermés.
Thank you.
nos vacances au soleil, sous les yeux bébé, dans un institut de beauté. Notre superbe voilier qui a jamais vu la mer. Nos lits improvisés sur un morceau de moquette. Les discussions de fin de soirée chez les copains. Ah oui, parlons-en des copains. Pour foutre la merde et son champion. Gros plan sur tes yeux quand ils me disent je t'aime. Nos scènes de jalousie qui fatiguent tout le monde, la rue des Bernardins et le square Gambetta. Nos crises de fou rire juste au mauvais moment. Et nos jeux de mots ringards qui ne font rire que nous. Puis, notre premier rendez-vous dans un nightclub désert. Avec la bonne copine qui veut pas tenir la chandelle et qui se tire en râlant. Juste une mise au point sur les plus belles images de ma vie. Sur les clichés trop pâles d'une love story. Sur l'état d'âme d'une femme sans alibi qui rêve toute sa nuit. Juste une mise au point pour un petit clin d'œil de survie. Pour tous les fous, les malades de l'amour. Pour toutes les victimes du romantisme comme moi. Juste un petit clin d'œil, une mise au
Allez, comme promis, bah on va retrouver comme chaque semaine notre ami Stéphane Dezenclos. On va être obligé d'être un tout petit peu moins bavard, Stéphane. Là. Bonsoir
ouais,
Stéphane, ça va
dur, hein. Bonsoir.
Oui, donc Stéphane Dezenclos. Donc Stéphane, bah on va revenir un petit peu quand même sur cette semaine de Coupe d'Europe avec donc notamment l'Olympique de Marseille qui après avoir donc remporté le match aller 4-0 s'est fait un petit peu peur, mais en étant quand même battu 3-1, l'OM donc, eh bien, a décroché comme prévu son billet en quart de finale.
Ah ouais, bah, un petit peu, le mot est faible quand même, hein, parce que je pense qu'à à 10 minutes de la fin ou à 5 minutes de la fin, à 3-0 pour Villarreal, les supporters marseillais, ils n'en menaient pas large. Hein, mais bon, enfin, alors, ce qui compte, c'est le résultat final, effectivement, 3-1, donc ils sont passés. Mais Lille est passé après derrière tranquillement aussi, donc tout va bien comme on le pressentait, comme on le voulait. Trois clubs français en quart de finale, c'est magnifique.
Très bien. Donc le Real et puis aussi donc l'équipe de Lille hein, qui donc après sa nette victoire à Tormgrad en Autriche 3-0 a concédé le nul 1-1. Lille aussi donc qualifiée pour la Ligue Europa Conférence.
Voilà. C'est magnifique, avec des belles affiches à venir, hein, puisque vous allez certainement en parler, Barcelone, Benfica et puis Aston Villa, c'est des sacrées belles affiches.
Très bien, alors Stéphane, on va aussi revenir un tout petit peu sur les matchs, donc les autres matchs de Ligue des Champions, hein, puisque la semaine dernière, on en parlait, Real, Bayern, Manchester City et le PSG avaient décroché leur billet. Ils seront donc accompagnés de Dortmund, qui a gagné 2-0 son match retour après un nul à Eindhoven, un partout, de l'Atlético de Madrid, hein, c'était une des grosses affiches de ces matchs de Coupe d'Europe. L'Atlético, donc vainqueur 2-1 après prolongation face à l'Inter de Milan, donc 3-2 au tir au but. Il y avait eu un match aller gagné par l'Inter 1-0. Et puis également un match qui est allé dans la séance de tir au but, bien c'est le match entre Porto et Arsenal. Porto s'était imposé 1-0 à l'aller. Arsenal a gagné le match retour 1-0 après prolongation, 4-2 aussi au tir au but pour les Londoniens. Et puis Naples-Barcelone, match nul, un partout, et victoire du Barça 3-1. Donc ça va nous donner comme quart de finale Paris Saint-Germain, Barcelone, Real Madrid, ça sera le choc, Manchester City, Arsenal, Bayern de Munich et Atlético Madrid, Dortmund.
Ouais, tout à fait. Avec la, bah, sur les résultats des huitièmes de finale, oui. Il y a pour moi quand même une petite surprise, c'est l'élimination de l'Inter, hein, qui était finaliste la saison dernière, oui. qui surnage. Qui surclasse le championnat en Italie, qui a une très grosse équipe et tout. Bon, bah, c'est sûr, ils n'ont pas réussi à faire ce qu'il fallait. Ils avaient en plus gagné 1-0 à l'aller, mais l'Atlético a de la ressource et ils ont fait ce qu'il fallait pour aller au bout du bout. Ils auraient même pu marquer un but dans le jeu pour s'éviter la série de tirs au but. Maintenant, après, quand vous avez Yann Oblak dans les buts, c'est quand même un peu un avantage quand vous allez au tir au but, quoi.
Oui, alors au niveau de ces quarts de finale, bon, le choc, on l'a dit, hein, c'est Real Madrid, Paris, Manchester City. PSG-Barcelone, c'est complètement jouable pour le PSG.
Bah oui, je dirais que de toute façon, le souci, c'est que quand on dit c'est complètement jouable, quoi, moi je pense que c'est complètement jouable, c'est du 50-50. Ouais. Pourquoi du 50-50? Parce que le match retour a lieu à Barcelone. Ça aurait été inverse, j'aurais dit peut-être 48 Barça et 52 Paris. Mais moi, de toute façon, j'ai toujours pensé qu'en dehors de, on a vu tout le monde a vu cette Ligue des Champions, en dehors du Real Madrid de Manchester City, même si on peut Real Madrid, il y a le poids de l'histoire, mais en dehors, il y avait pas vraiment d'équipe, je pense, où c'est impossible. Maintenant, c'est sûr que le Barça, pour moi, c'est l'équipe type dans la même catégorie, un peu à égalité avec le Paris Saint-Germain. Alors après, ça va être les aléas d'un match, les formes des uns, des autres, ce qui va réussir, pas réussir. Pour l'instant, les deux équipes ont l'air d'être très en forme toutes les deux. Donc, on va voir. En tout cas, ça devrait faire certainement des bons matchs. Et puis après, la perspective aussi. Si... En tout cas, on évite le Paris Saint-Germain va éviter, si jamais ils vont au bout, ils peuvent aller en finale sans avoir besoin de battre le Bayern, le Real Madrid, Manchester City, ce qui est quand même assez, assez exceptionnel. Quoi.
Et peut-être qu'avec des clubs espagnols rencontrés.
Ah, peut-être.
Oui. Si c'est l'Atlético en demi, après donc la Real Sociedad. En huitième, on avait commencé ce point foot avec l'OM. L'OM, ça rappellera des souvenirs aux anciens que nous sommes. Hein, Benfica-Marseille hein, en quart de finale.
Ouais, Marseille-Benfica.
Là aussi, c'est jouable.
Voilà. Là, la différence, effectivement, ils ont le match retour à jouer au Vélodrome, dans un Vélodrome qui va être bouillantissime. Donc, effectivement, ça, je suis pas trop moi comme partisan de mettre les supporters dans le pourcentage de victoires, mais c'est vrai qu'on peut dire que ça rajoute peut-être quand même un petit peu de chance. En tout cas, ça n'en diminue pas au Marseillais. Benfica, c'est pas non plus la grande équipe de Benfica, mais bon, normalement Benfica c'est quand même au-dessus de Villarreal, donc il va falloir quand même que l'OM fasse mieux que ce qu'ils font ces derniers temps. Et le problème c'est qu'on a du mal, on va voir, on en saura un petit peu plus dans les 2-3 prochains matchs, mais on a du mal un petit peu à dans les deux matchs, au moins avant l'aller, on a du mal à bien situer cette équipe de Marseille quand même, faut l'avouer, quoi.
Alors, les autres matchs, ce sera Bayer Leverkusen, West Ham, AC Milan, AS Roma, donc un match entre Italiens, et Liverpool, Atalanta de Bergame, pour l'Europa League Conférence. C'est peut-être le gros morceau, Lille contre donc les Anglais d'Aston Villa.
Ah ouais, bah c'est sûr que sur papier, en tout cas, c'est un gros morceau, parce que Aston Villa, c'est quatrième, je crois, en première ligue. C'est une équipe de première. Et quand t'es quatrième en première ligne, t'es quasiment assuré d'être de tout en haut en Ligue 1 et dans d'ailleurs tous les grands championnats quasiment. quasiment les autres grands championnats européens. Donc c'est vrai que c'est une solide, très solide équipe avec notre ami qu'on connaît très bien, qui est Unai Emery, qui est très spécialisé dans les coupes d'Europe, Ligue Europa aussi. Donc ça va être compliqué pour Lille. Maintenant, Lille c'est aussi une équipe étonnante cette année avec un entraîneur très 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 performant, qui trouve plein de solutions avec des joueurs très intéressants. Peut-être un manque de bonnes touches pour essayer d'aller au bout.
Alors, les autres matchs, donc Olympiakos, Fenerbahçe, ça va être un match chaud. Bruges contre le PAOK Salonique et puis Plzen donc contre la Fiorentina. Un petit mot sur la demi-finale de coupe, sur le quart de finale de Coupe de France, hein, qui a vu le PSG finalement logiquement s'imposer devant Nice 3-1, même si par moment Paris Saint-Germain a eu quand même quelques petits absents dans ce match.
Oui, il y a eu peut-être quelques petits absents, mais bon. Il ne faut pas oublier que Nice s'est refait un peu la cerise en allant gagner à Lens, mais que Nice était quand même une équipe en début de saison, et toute la première partie de saison même, qui prenait quasiment très très peu, voire pratiquement jamais des buts, qui était très bien organisée. Ça faisait penser un petit peu. Moi, je pense que c'est assez révélateur parce que l'année dernière, la saison dernière, Paris s'était fait battre au tir au but par cette même équipe de Nice. Non, il y a deux ans.
Il y a deux ans. Mais ils jouaient beaucoup plus défensifs à l'époque, hein, les Niçois, hein, que sur ce match-là. Hein. Ils ont eu des occasions quand même.
Ils étaient venus jouer très, très, très défensifs. Ouais. Mais Nice, ils ne sont pas venus non plus pour attaquer à tout va. Hein, là. Mm-hmm. Ils sont aussi venus beaucoup pour bloquer derrière. Ouais. En se disant, bah, comme il n'y a plus la prolongation pour l'instant, en se disant certainement en rêvant d'aller encore au tir au but, je ne pense pas qu'ils sont venus faire non plus énormément de jeux. Donc, ils ont quand même des bons joueurs. Donc, les équipes qui font ça, c'est vrai qu'on est forcément un petit peu exposé. Mais effectivement, Paris n'a pas fait un grand match. Mais c'est un match de coupe. Donc, c'est seul la ville. Le résultat final compte dans ce genre de match. Oui. Et puis, c'était quand même une grosse. Donc quand on voit qu'effectivement après ils vont battre Lens largement les Niçois, même si ça n'a pas été facilement, ça a été largement. Donc on se dit que finalement on va faire la fine bouche, quoi.
Voilà, donc effectivement, ça sert de transition pour cette journée de championnat, tout en rappelant que Lyon, Valenciennes et Paris Saint-Germain, Rennes seront donc les affiches des demi-finales. Alors le championnat, justement, Lyon qui va gagner à Toulouse 3-2, Nice, tu l'as dit, donc qui gagne à Lens 3-1. À noter aussi que Strasbourg est allé gagner à Nantes, donc ça a valu bien la peau de Sylvain Gourvennec, remplacé par un revenant, Antoine Comboiré. Match nul entre Brest et Lille, 1-1. Match nul aussi entre Monaco et Lorient, 2-2. Victoire de Reims devant Metz, 2-1. Victoire de Clermont, peut-être un petit espoir pour les Clermontois, après leur victoire contre Le Havre, 2-1. Rennes qui bat Marseille, 2-0. Et puis le Paris Saint-Germain qui a cartonné à Montpellier, 6-2. Donc PSG toujours en tête avec 59 points, 12 points d'avance maintenant sur Brest, 2e, 47. 3e, Monaco, 46. 4e, Lille et Nice, 43. Et 6e, Lens, 42. Et en bas de tableau, c'est toujours aussi serré. Le Havre, 13e avec 27 points. 14e, Montpellier, Lorient, 26 points. 16e, Nantes, 25, 17e Metz 23 et 18e Clermont 20 points.
Ouais, tout à fait, ouais, c'est très chaud. Bah, en haut, on doit avoir, je crois qu'il y a 5 équipes en 4 points à partir de la 4e place, hein, je pense. Que ça doit faire ça, 43 pour le 3 et 39, quoi, pour à égalité Marseille et Rennes.
Donc, juste derrière.
Malgré la défaite de l'OM à Rennes, ce qui est plus inquiétant, c'est plus la consistance de ce match après celui de Villarreal, plus que les points perdus, parce qu'ils sont à 4 points de la 4e place, à 8 matchs de la fin, tout est possible. Et en bas, c'est exactement la même chose, quoi. Donc ça se bat. Bah, en plus, maintenant, on est à 18 clubs, hein, donc c'est-à-dire sur 18 clubs, combien de clubs, j'ai pas particulièrement regardé là et tout, mais combien de clubs ne jouent rien? Moi, j'aurais tendance à dire peut-être un club, deux clubs, parce que quand on pense que la 7e place, si le Paris Saint-Germain gagne la Coupe de France, ce qui est une grosse possibilité, ou voire même un autre club, peut-être Rennes, s'il se classait parmi les sept premiers, ils vont dégager une place de.
On redescend jusqu'au 7e. On redescend jusqu'au 7e.
En Ligue Europa Conférence. Le 7e peut être en Ligue Europa Conférence.
Absolument.
Le 16e, il est en. 16, 17, 18. Le 16e, il est en barrage. Mm-hmm. Donc, déjà, au milieu de ça, il n'y a plus que 9 équipes. Et sur les 9 équipes, il y en a au moins la moitié, pas loin de la moitié, qui sont. Qui doivent regarder derrière, et puis l'autre moitié qui peut quand même encore regarder devant. Hein. Même une équipe comme Lyon, par exemple, doit être à 5 points de Rennes et à 5 points de la 7e place, je pense, là. Mmh. Donc, tout est possible, quoi.
Allez, la 29e journée de Ligue 2, Auxerre a battu Caen 2-1, Angers battu à domicile par Amiens 3-1, Dunkerque qui va gagner à Laval 2-1, victoire de Saint-Etienne à Bastia 4-0, Rodez, ça te fera plaisir, je sais, bas Grenoble 3-1, et puis le Paris FC, hein, c'est notre club du coin, qui bat l'AC Ajaccio 2-0, Auxerre qui prend un petit peu large avec 55 points, devant Angers 2e 50, 3e Saint-Etienne et Laval, donc qui sont en position de barragiste maintenant avec 48 points, 5e Rodez 43. Quant au Paris FC, ils peuvent encore jouer les playoffs. Hein, le Paris FC, ils ne sont pas très loin. Ils ont 42 points. Ils sont 6e égalité avec Guingamp, Caen et Amiens. Et puis en bas de tableau, par contre, c'est aussi serré pour la descente, puisque Bastia et Concarneau sont 16e avec 33 points, 18e Assy 30 points, 19e Quevilly-Rouen 28 points, et seul donc Valenciennes est bon dernier et pratiquement condamné avec 20 points et 20e.
Ouais,
avec 17 descente, points, pardon. Hein,
donc c'est, puisque le championnat de Ligue 2 va passer aussi à 18, 4 descentes. Et puis bah, la nouvelle quand même de ces derniers jours, là particulièrement encore de la dernière journée, c'est effectivement Saint-Etienne qui, du coup, peut vraiment se mettre dur comme fer à croire à une montée directe, hein, parce qu'ils sont à combien de points de la deuxième place ? À 2 points, non, de la deuxième place, Saint-Etienne. Donc ils peuvent, ou 2 ou 3 points. Donc
non, 2 points, 2 points, je viens de le dire, 2 points.
Deux points, ouais. Donc Angers est un peu catastrophique sur les derniers matchs. Donc tout peut arriver. Historiquement, on a toujours vu des équipes revenir de derrière, des entre guillemets favoris ou pas forcément des équipes un peu solides. Je pense par exemple à une équipe comme Amiens, par exemple. Amiens. Je ne sais pas là, de tête combien de points ils ont, mais à Amiens, ça fait partie des équipes qui peuvent.
Ils ont 42 comme le Paris FC, c'est ce qu'on a dit, ils peuvent encore jouer les playoffs. Ils ont gratté
une place dans le top 5.
Ouais.
Donc, historiquement, ça a souvent été comme ça.
Ouais.
Il y a toujours arrivé dans le top 5 une équipe qui est arrivée de derrière, un peu de nulle part. Alors, il y a Caen qui est un peu aussi, c'est très très serré, parce que quand vous le disiez, t'as une équipe comme Rodez qui n'est pas du tout à la base programmée pour se retrouver là, mais bon, ils sont là, et puis moi, je pense qu'ils prouvent qu'ils ont des très très bons joueurs, hein. Outonji qui est devenu, je crois, le deuxième meilleur buteur de Ligue 2 après le match de samedi contre Grenoble, il a marqué deux fois, Corridor qui est pas loin, qui est un très très bon joueur, et puis donc on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais il peut y avoir aussi des équipes comme ça. Puis il y a Dunkerque aussi. Alors Dunkerque, je crois qu'on en avait déjà parlé.
Oui,
ils, ils ont fait un recrutement intéressant au mois de janvier, et c'est un truc de fou. Faudra regarder, mais je pense que depuis le 1er janvier, ça doit être une équipe, ils doivent être dans les 8 premiers au classement, hein, ou peut-être dans les 5 premiers même. Ils font des très très bons résultats, Dunkerque.
Oui. Allez, on va finir avec le national. Hein. Ça fera plaisir à Fabrice. Tiens. Versailles qui est allé gagner à Cholet 1-0. Le Restart joue ce soir contre donc Villefranche en Beaujolais. Le Restart donc très largement en tête avec 51 points devant New York 47. En National 2, le Paris Atlético s'est imposé à Romorantin 1-0. Le Paris Atlético revient à 2 points pour la montée. Hein. C'est Libourne en tête avec 35 points, donc devant le Paris Atlético 33. Et puis juste pour finir, les féminines, donc 17e journée. Victoire de Lyon devant Fleury 4-0, le PSG qui va gagner à Guingamp 4-0, le PFC pardon, qui va gagner à Guingamp 4-0, et le PSG qui écrase Saint-Etienne 5-0. Lyon est en tête à 49 points devant le PSG 42, 3e Paris FC mais un match en moins 37, et 4e Montpellier 26. Merci Stéphane, rendez-vous la semaine prochaine, et puis au bout du foot avec Malik dans quelques minutes. Okay.
Tout à fait, moi je suis à partir de 21h, je serai ok. Okay.
Très bien.
Bonne soirée à toutes et à tous et à très vite.
Merci, allez, on enchaîne maintenant avec les infos, j'allais dire hors foot avec Alexandre.
Absolument, commence ce journal des sports par le volley, la victoire du Paris Volley 3-2 sur le terrain de Nice. Les Parisiens creusent l'écart avec le Plessis Robinson et confortent leur 8e place qui, je le rappelle, est qualificative pour les play-offs de fin d'année. Ils sont à 4 points de Saint-Nazaire, classé 7e juste devant eux, et ils sont à 6 points devant le Plessis Robinson qui a tout de même gagné 3-0 contre Saint-Jean-d'Illiac, la lanterne rouge du championnat. Il y a aussi eu du tennis ce week-end avec le Master Mills des Indian Wells et la victoire de Carlos Alcaraz contre Daniil Medvedev. Un an après, le joueur de 20 ans remporte une nouvelle fois la compétition. Et de quelle manière ? 2-7-0, 7-6, 6-1. Ça fait du bien pour l'Espagnol qui n'avait pas gagné un tournoi depuis le Wimbledon de l'été dernier. Il assumait son statut de favori et conforte sa place de deuxième mondial. En biathlon, la Française Lou Jean Monod remporte la dernière Master de la saison. Elle a devancé l'Allemande Janina Etit-Walls et la Française Ilone Guigonot qui, grâce à un sans-faute derrière la carabine, décroche à 25 ans le premier podium de sa carrière. « Je ne pensais pas pouvoir décrocher ce globe », a-t-elle déclaré en toute humilité. « Je n'aurais jamais pu rêver mieux pour terminer la saison ». Pour le général, c'est l'Italienne Lisa Vitozzi qui décroche à 29 ans son premier globe de cristal. Chez les hommes, avec 712 points et 6e au classement, c'est Emilien Jacquemin qui termine le français le plus haut sur la liste. Éric Perrault termine 11e avec 622 points et Quentin Fillon-Maillet 16e avec 506 points. Et les résultats du ski alpin sont également sortis. Le français le mieux classé, c'est Cyprien Sarrazin. Il termine 5e avec 684 points. Clément Noël finit 15e et Nils Allègre 17e. Pour les femmes, résultat décevant parce qu'on compte seulement une Française dans le top 30. C'est Laura Gauche qui est classée 28e. Pogacar a tout tenté, mais Pogacar. C'est Jasper... Pogacar, ouais. Pardon, excusez-moi, a tout tenté, mais c'est Jasper Philipsen, le Belge, qui remporte ce Milan-San Remo avec une vitesse moyenne de 46 km/h tout au long de la compétition. Michael Matthews termine deuxième et Tadej Pogacar, justement le Slovène, complète le podium. Et puis on clôture ce journal des sports avec la victoire symbolique de l'équipe de France de handball face à l'Égypte. Les Bleus se sont imposés 39-31 contre les derniers demi-finalistes des Jeux Olympiques dans le cadre du Trophée des Continents. Ils poursuivront leur préparation pour les Jeux dans 2 mois avec un stage suivi d'un match amical contre les États-Unis samedi 11 mai à la LDLC Arena de Décines près de Lyon.
Eh bien merci Alexandre, tout s'est bien passé. 30 secondes pour finir Fabrice, merci en tout cas.
Merci à vous.
Ça a été un plaisir, t'as vu
comment oui,
ça...
exactement. Ah, ouais.
Je ne vais pas dire comment ça se passe à la radio, tu connais. Hein.
Non mais il y a plein de choses à faire encore.
Ouais. Voilà, très bien. Merci Vanessa.
Merci.
Pour le badminton. Merci donc Alexandre. Merci à nos amis techniciens, notamment Jason aux manettes. Et puis on se retrouve nous la semaine prochaine dans un instant. Donc c'est au bout du foot, l'émission de Malik qui regarde le foot sous un autre angle. Belle soirée à toutes et à tous.
Belle soirée.
Sur mon lit à bouffer sa langue en buvant en mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi. Poupée de cellophane, cheveux chinois. Un sparadrap, une gueule de bois. A bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc. S'envoyer du paillasson, limé, ruiné, vidé, comblé. You are the king of the divan, qu'elle me dit en passant. I am the king of the divan. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Ça plane pour moi. Banana.
ses barres et enfin ses mares à tout casser. L'évier, le bar me laissant seul comme un grand colard.
Ouh, 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 ou